Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toi qui nous écoute en podcast, bienvenue sur la croisière des 20 ans de l'After. C'est une soirée forcément très particulière pour toute la famille de l'After. On est ensemble, on change un programme, hein, de 20h à minuit, Génération After, 20h-22h, 22h minuit, le bouquet, l'After avec Gilbert. On va commencer sur ce bateau, ce n'est pas une péniche, avec Gilbert Brébois. Bonsoir Gilbert.
Salut tout le monde.
C'est un moment important.
Ah oui.
Walid, la nouvelle génération est là aussi. Walid Acharchour est à mes côtés. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Pour la quatrième année de Génération After.
Quatrième année.
On a un peu du chemin.
Hein, on a encore un peu, on a 16 ans.
Simplement. Fort, hein, ça va vite. Hein.
Ça va très vite.
Va très vite.
Il est très ému d'être sur ce bateau.
Kevin Diaz est là, il avait commencé lui déjà avant Génération After, à mes côtés notamment. Salut à tous. Dans l'After du week-end. Salut Kevin.
Salut Nico, salut à tous.
Et Jimmy Brown aussi dans l'After. Salut Jimmy.
Salut Nico, salut tout le monde. Très content d'être là et un peu ému, ouais.
Un peu ému quand même, forcément. Il y a ce soir, il y a aujourd'hui, il y a demain également. Gilbert, il y a eu l'After et dans le pré, il y a eu l'After dans ta cité, il y a eu l'After dans ta prison.
Oui.
Également. Il y a l'After sur un bateau désormais.
Exactement.
Ça fait des mois que tu en parles à l'antenne, on y est. La fête a commencé déjà ce matin.
Exactement, bah, comme c'est la 20e saison de l'After, on a cette année préparé plein de choses. On fait une tournée dans les cinémas pâtés, il y a eu la Cannes, il y a la Coupe du Monde qui arrive. On a même lancé une ligne de vêtements.
Un restaurant.
On innove.
La nouvelle voie de l'After, bien sûr.
On veut surprendre la nouvelle voie de l'After. Il y a tellement de choses qu'effectivement, j'en oublie. Et un peu le point d'orgue de nos 20 ans, même le point d'orgue de nos 20 ans, c'est ce soir et demain. Puisqu'on est, grâce à Croisi Europe, notre partenaire sur un magnifique bateau de croisière fluviale, un bateau avec des roues à aubes, comme sur le Mississippi. Sauf que nous, c'est sur la Seine. Avec,
on n'est pas dans les Caraïbes, hein, pour ceux qui imaginent, nous imaginent non. Très loin sous le soleil. Hein. On est à 800 mètres d'RMC. Hein.
À peu près.
Mais on est bien.
Mais on s'est baladé toute la journée.
Exactement.
Sur la Seine, avec des auditeurs qui sont là, qui ont gagné leur cabine, d'autres qui sont des fidèles. Et puis surtout, on a essayé de reconstituer, Nico, toute la bande des 20 ans d'After entre ce soir et demain. Ils seront très nombreux à passer au micro. Donc si vous nous écoutez, que vous êtes des fidèles de l'After depuis toutes ces années, vous allez réentendre certaines voix. Parfois un peu oublié.
Tu peux donner quelques noms ou tu veux les garder en
vous
surprise?
Vous allez entendre certains qui avaient des idées un peu fixes, parfois.
Un supporter marseillais, peut-être.
Par exemple, tout à l'heure, on a même fait venir un ancien Messin, c'est dire. Donc,
il est aussi bordelais. Hein.
Voilà. Ouais. Bref.
Et les Lillois. Il est très élégant. Ce soir, comme tous les soirs.
Exactement.
Ludovic Obraniak.
Donc l'idée, c'est de se remémorer un peu 20 ans d'émission ensemble, de partager tout ça et puis de s'amuser, quoi. Comme on sait le faire, même quand on n'est pas sur un beau bateau comme celui-là, Walid.
Exactement. Et là, on entend que c'est un peu calme, Nico, mais en fait, il faut dire les choses aux gens qui nous écoutent. Il y a une centaine de personnes qui sont en bas à l'heure du dîner, en train de se régaler. C'est pour ça qu'on a un peu de... On a une ambiance un peu tamisée pour commencer.
Ils peuvent peut-être faire un peu de bruit, non?
Ça risque d'être un peu plus agité dans la suite de la soirée.
Mais nous, en plus, comme je voulais vous faire plaisir, je vous ai ramené les meilleures tartes flambées de Paris qui sont en train de se faire sur le pont supérieur. Donc, il y a du monde qui mange.
Magnifique. Walid, ça te fait quoi? T'es ému, t'es un enfant de l'After aussi.
Oui, un enfant de l'After. Et c'est très, très beau de célébrer cette 20e année sur un bateau où on est très, très bien accueillis. Moi, j'ai ma flamencuche, mais végétarienne.
Oula.
Non, c'est pas ça? La tarte flambée, pardon. La tarte flambée végétarienne que je viens de déguster tranquillement avant l'antenne. Et ça fait toujours plaisir de faire partie de cette aventure. Et des fois, on se rend pas compte de tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Et c'est beau de célébrer ça avec toute la famille de l'After.
Je vais juste vous raconter quand même comment est née cette idée de croisière. Est-ce que vous vous souvenez d'il y a 4-5 ans de ce qu'avait fait Neymar?
La croisière de Neymar, bien sûr.
La croisière de Neymar. C'est-à-dire que Neymar, un jour, il est arrivé, il a dit je fais une croisière. Là, c'était un bateau gigantesque, un truc.
Je me rappelle de cette discussion-là dans la rédac avec Julien Cazard, non?
Julien Cazard voulait absolument aller à la croisière de Neymar.
Exactement.
Il n'y est pas allé, c'est un des regrets de sa vie.
Ouais.
Et donc, ça s'est rempli en quelques minutes à peine. Neymar, il est venu une soirée, il a dû rester une demi-heure pour danser un peu et tout.
Et là, le businessman Gilbert Ribois a dit mais attendez, les gars.
Voilà. On s'est dit mais si Neymar fait une croisière, pourquoi est-ce que l'After fait pas une croisière? L'idée est née comme ça.
Ça remonte à 4-5 ans déjà.
Ça remonte à 4-5 ans.
Et Daniel, il a poussé le mimétisme jusqu'à faire une partie de poker comme Neymar sur sa croisière. Il y a eu une partie de poker organisée.
Et qu'il l'a gagné.
Il l'annonce depuis des jours et des jours.
Mais fort, Jimmy, hein, il annonce le sujet parce qu'il a gagné.
Non, pas du tout, c'est pas le
sujet.
C'est ça. On m'a dit que Daniel a eu pas mal de réussites, notamment face à David Guzman.
C'est pas impossible.
Bon, il faut aussi saluer ceux qui nous écoutent. Hein. Il y a ceux qui ont la chance d'être là, parmi les Afteriens. Il y a ceux aussi qui nous permettent chaque année de vivre l'aventure de l'After, Gilbert. Hein. Ils sont toujours aussi nombreux à nous écouter en podcast et en direct sur RMC.
Bah, exactement. Alors évidemment, en 20 ans, l'écoute de l'After a beaucoup évolué. Il y a 20 ans, il y avait uniquement le 32-16 qui permettait les interactions avec l'After. Max du Standard qui est avec nous ce soir pour revenir. D'ailleurs, il faudrait qu'il vienne témoigner un peu de sa vie ce soir, Max aussi, puisqu'il connaît énormément d'auditeurs de l'After. Et puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. On a très vite utilisé Twitter. Instagram, on a plus de mal, Walid. Il va falloir que tu nous...
Ouais, mais je vous aide.
On compte sur toi maintenant pour nous faire franchir le pas. Après, les podcasts sont arrivés. Après, la chaîne de télé est arrivée. YouTube est arrivé. Donc, on a beaucoup évolué aussi dans la façon de faire l'After et de consommer l'After. Voilà, donc...
Faut rappeler qu'au départ, l'After, il y a maintenant, c'était pas tous les soirs, d'ailleurs, Gilbert.
Non. Au départ, alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas...
C'était le vrai After, c'était After Match, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. C'est après match. Après-match.
Après, je peux vous raconter rapido cette histoire.
C'est pour ceux qui nous ont joints il y a quelques années seulement.
Donc en 2006, le 4 avril 2006, on fait le premier After. Avant l'After, sur RMC, il y avait déjà tous les matchs, mais à la fin du match, ça s'arrêtait. Il y avait la rediffusion de l'émission de Brigitte Lahaye, qui était de qualité.
Voilà. Et qui marchait très bien aussi.
Mais ouais. C'était un peu frustrant pour nous qui étions sur les terrains et qui parlions de foot, ouais. Parce que on savait qu'il y avait matière à faire tous les soirs des débats sur le match, les choix de l'entraîneur, les supporters qui réagissaient. Et donc, en fait, moi à l'époque, je me suis battu pour créer une émission d'après-match. Il n'y avait pas d'émission d'après-match. Aujourd'hui, il y en a pas mal sur les différentes chaînes qui ont les droits. À l'époque, même les matchs de Ligue 1, il n'y avait pas forcément d'émission d'après-match. Ouais. On attendait Jour de foot, oui. À l'époque, qui était, que j'ai pas de bêtises, peut-être le dimanche.
Samedi soir. Formule foot sur TF1 à minuit, je crois.
Il y a eu ça. Bref. En tout cas, il n'y avait pas d'émission comme ça.
C'était des magazines d'images ou avec des résumés de matchs.
Voilà. Et la nouveauté, c'était une émission d'après-match tout le temps. C'est-à-dire, même en semaine, les matchs de Coupe d'Europe. Et surtout avec de l'opinion. Ça aussi n'existait pas à l'époque. Alors, ça existait ailleurs. Ça existait en Espagne. En Italie, dans pas mal de pays méditerranéens, dans des pays du Maghreb, où il y avait déjà des afters. À l'époque, on s'était inspiré avec Daniel et Florent Gautreau, qui étaient là dès la première émission de ce qu'ils faisaient. Et donc, on a fait un premier after le 4 avril 2006. Mmh. C'était le fameux Lyon-Milan, où en fait, il y avait tous les ingrédients d'un bon after. C'est-à-dire Lyon qui perd, qui est dégoûté, problème d'arbitrage, à Milan, frustration lyonnaise, enfin vous connaissez, peut-être que Noël au 32-16 était déjà là, je ne me souviens plus. Bref, donc tout était réuni pour faire un bon after, et cette première a été suivie par la Coupe du Monde après en 2006, où la France va en finale.
Ok.
Donc ça nous a quand même
Et à quel moment t'as compris que ça allait être
une réussite.
Ou même une quotidienne. À quel moment tu t'es dit parce que
L'after devient quotidien. Je vais pas vous dire peut-être en 2008.
Ah donc 2 ans après. Vous avez mis quand même 2 ans après à
donc,
avoir une case.
Donc sur les deux premières années, l'after n'existait que les soirs de match. Alors le week-end, samedi, dimanche. Parce qu'à l'époque il y avait pas de match de Ligue 1 le vendredi. Et les matchs de semaine. Et le reste du temps, il y avait une autre émission qui était exceptionnelle, qui s'appelait Radio Moscato, qui est l'ancêtre du Moscato Show. Et Vincent était là, par exemple, une soirée comme ce soir sans match, vous auriez eu 2 heures de Radio Moscato qui était tout seul.
Incroyable.
Et qui recevait des auditeurs un peu comme les grandes libres antennes
des radios musicales à l'époque. Comme Maurice à l'époque. Voilà.
Donc Vincent, c'était le Maurice de 2006.
Donc à l'époque, on avait deux prototypes de deux success stories sur RMC.
Tout
quoi.
À fait.
On avait dans un laboratoire un petit peu la création de deux énormes émissions.
La naissance de Vincent Moscato à la radio et de l'After Foot.
Ouais. Et d'ailleurs, deux émissions le SMS, nos copains de la radio SMS qui fêteront leurs 20 ans l'année prochaine.
Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est des grandi.
Faut prouver sur le terrain comme un joueur de foot. Quoi. Faut prouver d'abord. Il faut montrer que tu peux pas être qu'un joueur d'un soir, mais
il a compris vraiment que ça allait marcher quand il a réussi à faire l'écart, à toucher Walid Acharchour. Il s'est dit si on arrive à ramener Walid Acharchour dans l'after, c'est que maintenant on est une marque installée.
C'est ce qu'il me disait en off, mais je voulais pas le dire.
On est vraiment une marque installée désormais.
On va essayer d'emmener encore un peu plus loin.
Autant qu'il y a, on n'est pas encore sûr.
Ou alors Walid, c'est le début de la fin, on sait pas.
Peut-être.
Bon, mais Gilbert, tu feras aussi un after classique pour les 20 ans ce soir, dès 22h, avec Daniel qui sera là, bien sûr, et beaucoup d'invités iconiques, anciens intervenants de l'after foot 32-16 ouvert.
Vous le savez, des supporters, des auditeurs passeront également à l'autre micro sur le bateau des 20 ans de l'After.
Et tu me disais que sur le dernier quart d'heure, on fera une tier list des meilleurs chroniqueurs de l'After Foot.
C'est prévu. Tu préfères.
On donnera notre avis, nous, sur ce qui s'est passé dans cette émission.
Tu sais qu'il y a peut-être des noms que tu connais pas qui peuvent te surprendre.
Est-ce qu'on ferait pas une mort subite de tous ceux qui ont été.
Incroyable. Jeu dangereux.
Ouais, jeu dangereux,
mais. C'est pas nous qui allons le faire, c'est un auditeur.
Si vous voulez, on revient à 21h50.
On fait une mort subite. Comme les compos, ils sont d'équipe Barça, PSG, on se fait une mort subite.
Tous ceux qui ont été
recrutés à l'After et qui ont fait des émissions en tant qu'éditorialiste.
Non, mais c'est. Je pense que c'est un terrain un peu glissant.
Intervenant RMC ? Intervenant After, pardon.
Intervenant After.
Je pense que. Ouais, est-ce que Gilbert les a toutes ?
Gilbert va, pendant son repas, déjà, la fin de son repas, les lister.
Moi, je suis désolé, mais déjà, j'ai une question. Hein, ouais. Du coup, Walid. Ouais. Gilbert ou Nico Jamin ?
Mais c'est ça.
À la présentation.
À Nico Jamin.
Il y a 20 ans.
À Nico Jamin. Ah, moi, je vais vers l'avenir.
C'est le père fondateur.
Il a raison, il est pragmatique.
Gilbert, à tout à l'heure. Et bon anniversaire à l'After, bien sûr. Nous, on a une émission à faire, un Génération After, ensemble. On a 2 heures d'émission. Qui serait un peu particulière ce soir, ce Génération After. On va faire de l'actualité, bien sûr. On va parler de l'Olympique de Marseille. Dabi Bey doit-il enfin faire des vrais choix forts, comme il en avait fait à Rennes notamment, malgré son éviction, malgré cette fin d'aventure-là. Comment relancer, donner un nouveau souffle à Marseille, physiquement, tactiquement, et à certains cadres de l'équipe. On parlera de Marnès Akliouche, qu'on en a beaucoup parlé dans Génération After. Il y a un mois environ, totalement relancé avec Monaco, mérite-t-il désormais sa place en équipe de France pour le Mondial ? Est-ce que ça fait encore débat selon vous ? Et puis on lancera une nouvelle rubrique ce soir dans Génération.
Ah, j'aime bien ça.
Débat express, le d'accord, pas d'accord.
Ça c'est ma génération.
J'affirme
ça.
Quelque chose et vous allez matcher les gars, vous allez boxer.
Ah, j'aime bien.
Et puis il y aura de nuance à ce moment-là. Le vainqueur sera décrété à l'applaudimètre.
Pas de nuance.
Par exemple, du actu foot. J'en ai un historique.
On veut du actu foot.
J'en ai un historique par exemple. Il y aura de l'actualité. Hein, Griezmann a plus marqué l'histoire des Bleus que Thierry Henry.
D'accord.
D'accord, pas d'accord.
D'accord.
Il est en train de réfléchir, Kevin.
Non, moi j'ai déjà ma réponse.
Je la connais ta réponse. Il y aura débat. Voilà pour Génération After, c'est donc parti, les amis.
J'en ai un juste, c'est Mbappé ou Thierry Henry. Et j'ai aussi ma réponse.
Mais toi, dès qu'il y a Thierry Henry dans une phrase, c'est Thierry Henry.
Le problème, c'est que là, c'est pas anglais, c'est Mbappé ou Thierry Henry. Oui, est-ce qu'en équipe de France,
pas d'accord.
En équipe de France, je veux dire Mbappé ou Thierry Henry. En équipe de France,
on sait pas. Voilà, on sait pas en fait. Mbappé ou Thierry Henry dans la vie.
Et moi, j'ai mon avis.
À la salle.
Et moi, j'ai mon avis. Dans la vie, j'ai mon avis.
À la salle.
Non, on sait pas en fait.
À ça, et tu vas à la salle, tu prends des références de la salle, toi.
Non.
Moi, j'ai
On a encore du chemin.
Ludo Bragnac a fait une meilleure carrière que Jérôme Rotten. D'accord, pas d'accord.
Intéressant.
J'ai mon avis aussi.
Intéressant.
Bah, Ludo, viens 2 secondes. Ouais. D'accord, pas d'accord quand même. Ouais. Il va se poser, Ludo. Hein. Alors, Ludo, on va resituer. Après, on fera une vraie mission quand même. Ouais. Moi, c'est Ludo qui me.
Là, c'est une émission qui se
fait. C'est Ludo. Salut, Ludo.
Je reviens avec Ludo. Mes amours.
C'est Ludo qui est tes uniques amours. Ça n'engage que moi, Ludo. C'est Ludo qui m'a accueilli, moi, l'after, le week-end.
Moi aussi.
À l'époque.
L'after de l'élégance.
Exactement.
Avec le troisième larron, ouais, Jonathan Macardy.
Exactement. On est heureux de t'accueillir. Hein. C'était inévitable que tu sois là ce soir. La question, Ludo Bragnac a fait une meilleure carrière que Jérôme Rotten.
Il n'y a pas de débat. Regarde Wikipédia, tu regardes le palmarès, puis tu verras les lignes.
Ah non, le foot de palmarès, il a raison.
Ton foot, Ludo, se lit sur Wikipédia.
Non, je rigole. Non, Jérôme a fait quand même une finale de Ligue des Champions, machin. Enfin, oui, il a fait une meilleure carrière que moi. Nettement, en passe décisive, il est deuxième de Ligue 1. Et
après, vous n'avez pas le même poste.
Ouais, bon, on était des milieux offensifs. Alors lui, c'était quelqu'un qui collait la ligne. Moi, j'étais plutôt à l'opposé. Je rentrais sur mon pied gauche, mais oui, là.
Et puis il a fait une finale de Ligue des Champions.
J'aime bien le titiller là-dessus, mais oui, je pense qu'il a une meilleure carrière que moi.
Il y a titre de champion de France.
Bien sûr.
Il y a combien de sélections avec la Pologne ?
40.
Jérôme, il y en a 12 avec l'équipe de France. Après, la question, c'est
est-ce que c'est difficile ?
Évidemment, on a la réponse.
Il y a une Coupe de France aussi où il fait mal au PSG.
Avec un coup franc.
Sur les titres, tu peux pas me challenger.
On a un jingle, Ludovic Bragnac. Écoutez.
Je comprends pas pourquoi on tourne du pot autour de cette affaire.
Oh ! Ça, c'est solide. Hein.
C'est ce qu'ils appellent l'after de l'élégance.
C'était au début, ça. Je devais être tendu.
C'est un peu stressé.
Et Jimmy, je parle en connaissance de cause, quand même. Parce que sur les 20 ans, j'ai explosé les jingles, quand même.
Quoi ? Mais toi, c'est plus un jingle.
Toi, t'as écrit un livre de jingles. C'est en 3 tomes.
Je suis le goat des jingles.
Ah, c'est le goat. Mais t'es vraiment le goat des jingles.
On s'en fait un petit ?
Vas-y.
Allez, c'est parti.
Pêle-mêle. Olivier Lotan, c'est chapeau. Chapeau melon et bottes de cuivre, on dit.
T'as bien fait
les bottes de cuivre. En Algérie, oui.
C'est là qu'il est fort, parce qu'il a de la répartie derrière.
On rebondit derrière. Je suis le Rudy Gobert de cette émission. Je rebondis.
Bon. Par contre, tu marques pas beaucoup.
Ouais, ça c'est vrai.
Ludo. Ah, on a Kevin aussi, on me dit. On y va, Kevin. C'est parti.
Est-ce que Messi reste? Est-ce que enfin bref, c'est un chambardome qui est énorme. Franchement, je suis tellement
mais ça,
fier.
C'est Marc Desposé.
Ça va rentrer la rousse.
Bien sûr, c'est
l'Académie française. Que par rapport au ratio du nombre d'émissions qu'on a faites, honnêtement, on n'a pas fait beaucoup de saucisses. Hein.
Ouais. Tu parles d'avis foot ou tu parles de.
Tu parles de la langue française. Je parle de la langue française. Des saucisses, alors en avis foot, on en a dit un wagon. Hein,
ouais, mais après t'as le Walid Acharchour qui fait des mea culpa. Ouais. Bah, toutes les semaines, il fait un mea culpa.
Ouais, c'est vrai.
Là, il va faire un mea culpa sur Akliouche.
Voilà. Ouais, pour les 20 ans, il faut quand même faire des mea culpa, donc je vais en faire un aujourd'hui.
Bon, Ludo, la troisième place de Marseille va-t-elle tenir?
Chaud. Chaud, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu sur le match de Lille, je suis très inquiet. Je sais pas. Moi, je suis assez ok avec l'analyse globale de l'arrivée d'Habib Bey qui pointe du doigt justement la fébrilité défensive.
Il est bon l'analyse d'Habib Bey, hein.
Il est très bon l'analyse. Après, est-ce que ce qui se passe sur le terrain est forcément en adéquation avec l'ADN du club, avec ce qu'est cette équipe en vrai? Parce que cette ville, ce public, ce club. Je suis désolé, mais c'est de la folie. Si t'arrives pas à emballer le Vélodrome lorsque tu joues là-bas, bah tu te tires déjà une balle dans le pied, à mon sens. Donc le côté, on prend trop de buts. Je vais régler ça. Est-ce que dans la tête des joueurs, je mets beaucoup la faute hein, sur le dos des joueurs, hein, parce que quand t'épuises deux entraîneurs comme ça dans l'année, sachant que deux entraîneurs, un qui a du bagou et qui a du background, donc qui est quand même pas n'importe qui, on pensera ce qu'on veut de la carrière de Zerbi. Après, Habib Bey est un jeune entraîneur, mais c'est quelqu'un moi que j'ai vu évoluer au Red Star. Je suis souvent allé le voir passer des journées là-bas avec lui. Je pense que ça deviendra un très très grand entraîneur. En tout cas, il a des principes moi qui m'ont beaucoup titillé, on va dire. Ouais. J'étais plutôt assez convaincu du travail qu'il effectuait là-bas. Donc ces principes, c'est l'intensité, j'en vois pas. Et puis je vois surtout un côté assez minimaliste, quoi. Beaucoup de prudence, beaucoup de. Et je sais pas si cette équipe elle est faite pour ça.
Yeah.
Par contre, moi la fatigue, tout ça, je peux pas mettre la faute sur la fatigue. Quand Lille joue 48 heures avant et que sur la dernière action du match, sur le but de Giroud, tu te retrouves à 5 dans la surface de réparation et que Marseille a pas réussi cet exploit en 90 minutes.
Même si on parle de fatigue, j'entends la fatigue physique, mais la fatigue psychologique pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, elle existe.
Oui, oui.
Ça c'est sûr. À partir du moment où tu vois que l'OM a quand même des difficultés à finir les matchs, je pense que ça peut être psychologique. Par contre, il y a un truc que t'as dit, Nico, que moi, même si toi tu l'as dit en souriant, mais que je ne peux plus entendre. Ah, c'est Habib Bey, il s'exprime bien, il explique bien.
Mais j'ai fait exprès, c'était ironique pour l'instant.
Mais je sais
en tout
bien.
Cas.
Mais c'est pour ça que je rebondis.
C'est l'ironie, je veux dire.
Pourquoi
je rebondis, il est excellent. Pour l'instant,
Mais moi, au contraire, quand je dis ça, je vais dans le sens d'Habib Bey. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, il parle bien. Mais en fait, c'est négatif pour dire, il parle trop bien, il nous explique le foot.
Mais après, il est juste sur ses résultats, Kevin.
Non, mais attendez, mais quel résultat ou pas? Est-ce que ce n'est pas une qualité? De t'exprimer correctement et de pouvoir expliquer les choses quand t'es entraîneur.
Non, on dit juste qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'il dit et ce qu'on voit.
Mais le décalage, il est clair, puisqu'il a balerdi dans son équipe. Donc, forcément, tu peux expliquer le foot comme tu veux, tu peux mettre Arrigo Sacchi ou Guardiola,
Il continuera
de faire des boulettes.
Il a le droit de le mettre sur le banc, Balerdi, non?
Parce qu'il considère qu'il a pas mieux.
Enfin, il n'y a pas que Balerdi, hein. Je trouve que Medina.
Je t'ai pris l'exemple.
Sur le match, tu vois.
Je t'ai pris l'exemple.
Timothy Weah,
les gangsters de barbecue.
Non, mais il y a quand même une équipe qui est en grande difficulté défensivement. Et même si moi, je peux
pas trop. Le problème, c'est pas qu'il s'exprime bien, c'est tout ce que je disais.
Non, bien sûr, bien évidemment. Mais maintenant, moi, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. On est aussi là pour dire, et moi globalement j'étais un fan d'Habib Bey par rapport à tout ce qu'il a fait au Red Star et je l'ai mis en avant dans cette émission là. Maintenant, il faut pas prendre les gens pour des idiots. Entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, il y a un gros décalage.
Et moi
oui, d'accord, mais si on peut terminer, Kevin.
Vas-y.
Je trouve quand même que par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit quand il avait retourné la table à Rennes, ce qui avait conduit à des résultats très intéressants, quand il s'était passé de Fofana, de Blas, c'était peut-être la meilleure période dans le jeu et tactiquement, et la même chose au Red Star en termes d'ambition dans le jeu, je suis d'accord avec Ludo, c'est très minimaliste. Pour l'instant, il fait des choix qui peuvent s'entendre sur les 2-3 premiers matchs parce que il arrive à Marseille, il a pas la légitimité par rapport à ce qu'il venait de faire en tant que coach à Rennes pour être à Marseille, de se rapprocher des cadres, de faire jouer les cadre et d'avoir des compos entre guillemets politiques.
C'est vrai parce qu'on avait dit ça à Rennes également.
Il y a ouais, exactement. Ouais, à Rennes, en ce moment de la saison, tu peux faire autre chose.
Oh, non. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi, le Habib Bey que j'aime, c'est le Habib Bey qui se challenge, qui challenge ses joueurs, qui challenge son vestiaire. Et quand je vois, moi, sa compo contre Lille, je vois une compo démagogique.
Mais
laisse-moi terminer,
attends,
Kevin.
Attends.
C'est important de mettre le contexte. C'est que quand j'entends et je lis qu'Aubameyang n'a jamais été aussi frais et que je vois son match pendant 90 minutes, je souris. Quand je vois un milieu de terrain, encore une fois, où on nous met, on nous envoie le discours de l'intensité avec Timber en 10, Kondogbia et Højbjerg pendant 90 minutes, je souris. Quand je vois Pavard, qui était le meilleur défenseur sur les deux derniers matchs, qui n'est pas sur le terrain sur le match, je ne comprends pas. Quand je vois que cette équipe-là, face à une équipe, Lille, qui a joué deux matchs de plus que toi depuis ton match vendredi contre Auxerre. Ils ont joué Rennes dimanche soir au Roazhon Park et ils ont joué Villa à Villa le jeudi. Et ils terminent mieux que toi. Lille a des vieux briscards en charnière centrale, au milieu de terrain ou même devant. T'as l'impression qu'ils avaient 23 ans pendant la rencontre. Donc, sur l'histoire de l'intensité, sur l'histoire du jeu et sur l'histoire des choix, et je conclurai, je reconnais pas. En fait, Habib Bey, pour l'instant, il fait de l'opérationnel. Il
met
une compo.
Il peut pas faire
que
autre chose.
Mais
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Il doit faire son boulot.
Ludo parlait de prudence tout à l'heure. Trop de prudence aujourd'hui. C'est compliqué pour Habib Bey. Il vient d'arriver dans le club de sa vie, de son cœur, avec un effectif déjà constitué, avec des cadres, avec des caractères aussi. Est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui de faire des choix parfois des choix, qui vont remettre en question certains statuts à Marseille? Il peut le faire ou pas?
Bah, et en fait, c'est la chance de sa vie quand même, ce poste à l'Olympique de Marseille. Donc, il faut que t'imprimes une identité. Il faut que tu montres que tu es capable de pouvoir apporter, insuffler quelque chose à ce club-là.
Avec 2 mois finalement, c'est, quoi.
Encore une fois, je comprends l'analyse, c'est-à-dire te dire, ok, je me dis, je regarde les matchs, on prend 2 buts par match. Cette équipe, elle a quand même du potentiel offensif en étant solide défensivement avec un bloc médian bas. On va avoir Greenwood, on va avoir des joueurs de qualité. Peut-être qu'on va gagner 1-0 comme on l'a fait contre Auxerre. Et finalement, sur la fin de saison, ça va nous amener à passer. Et on a quelques points d'avance avec cette 3e place. Ça va passer
comme
ça.
Sauf que le 16e de Ligue 1, voilà. C'est pas la même chose que le 4e ou le 5e de Ligue 1.
Et moi, je suis pas certain. Parce que si tu joues à Monaco de cette manière-là, que tu perds à Monaco et que les autres te passent devant, je pense que psychologiquement, le fait d'être derrière, parce que tu peux te retrouver 5e ou 6e. Il y a 2 équipes ou 3 équipes qui peuvent te passer devant. Lyon, pas au goal average, mais Lille est. Et Monaco peuvent te passer devant.
Non mais Ludo, juste parlons des choix et je pose la question à Kevin. Quand tu vois le match contre Auxerre, t'as vu le match contre Auxerre, Kevin? La première mi-temps, t'en penses quoi? Elle est abyssale. Je vais répondre, elle est abyssale. La deuxième mi-temps,
t'en penses quoi?
Non mais la deuxième mi-temps, parce que tu vas.
T'en penses quoi? Elle est abyssale.
Non mais elle est abyssale. En deuxième mi-temps, qui te fait changer? Qui te fait changer le jeu?
Mais là, je suis d'accord.
C'est
Guiri.
Comment Guiri ne démarre pas? Moi, je veux bien. Encore une fois,
il a expliqué ça ou pas?
Il dit qu'il n'avait pas 90 minutes. Encore une fois, peut-être. Mais moi, je suis désolé. Non mais entre ce que je vois d'Aubameyang, il a pas 20 minutes.
Il rentre à la 70e, c'est beaucoup trop tard.
C'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis. Alors peut-être qu'il y a le résultat qui fait que vu que tu mènes 1-0, tu t'endors un petit peu et tu veux pas bouger les choses. Mais moi, je suis désolé. Quand tu as un milieu de terrain avec Timber en 10, qui n'est pas utilisé de la première mi-temps, il est transparent, alors que moi, je le préfère plutôt milieu relayeur. Et encore, le pauvre Timber, il essaye tant bien que mal parce que c'est quand même
un des meilleurs joueurs de l'OM depuis.
Parce que c'est quand même lui sur la première mi-temps qui donne
Timber,
le ballon
déjà parlé
à Pacheco.
D'accord.
Mais ces choix-là. Bah,
laisse-moi répondre parce que là, ça fait une demi-heure.
Ces choix-là, on peut en discuter quand même.
Bien sûr, on peut discuter des choix. On peut discuter des choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, est-ce que tu me permets de penser que Habib Bey, comme l'a très bien dit Ludo, on a reproché à De Zerbi de faire très compliqué. C'était compliqué, tu disais oui, fais-moi un 4-3-3, arrête avec tes 3 défenseurs,
c'est pas un 4-3-3,
arrête avec ton football liquide, joue simple. Bref,
sur certains matchs,
reviens à des choses simples, c'est ce que tu disais.
Par contre, le De Zerbi contre Lens, je le prends, le 3-4-1-2 là avec le losange, etc., je le prends tous les jours.
En attendant, Habib Bey, il arrive. On peut pas lui reprocher de faire des choses simples, puisque t'as demandé à De Zerbi de faire des choses simples.
Dans un premier temps, il l'a fait sur les 3 premiers matchs. Il l'a fait contre Toulouse, contre Auxerre. Moi, je me suis satisfait du résultat.
Sauf
qu'il y a un moment, il doit quand même changer de braquet.
Allez, stop. Ludo, dernière question pour toi sur l'effectif marseillais, parce qu'on parle de la saison, des échecs marseillais en Ligue des Champions, la peur de sortir du podium en fin de saison. Comment tu le juges cet effectif-là? Est-ce que c'est réellement le deuxième meilleur effectif de Ligue 1? Parce qu'on se pose pas la question de savoir si finalement on n'a pas surcoté, à part défensivement peut-être, cet effectif.
Il y a des noms. il y a des gens qui sont attirés par le l'adrénaline et le et la popularité et l'ambiance et l'ambiance du stade Vélodrome. La preuve en est, hein, tu fais venir des entraîneurs de renom, il y a des joueurs, des internationaux confirmés qui viennent, alors que bon, ces dernières années, tu t'es pas rapproché du Paris Saint-Germain, t'avais raté les coupes d'Europe pendant un moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de clientélisme en fait de la part des joueurs. Je trouve qu'il y a il y a ce côté et notamment je repense aux excuses de Pavard par exemple.
Ah là tu remontes loin. Là.
Voilà, je repense aux excuses de Pavard, je repense à ses attitudes de Medina, de Balerdi.
Mais Ludo, Medina c'est un bon exemple. Moi tu vois on parle du CV des mecs et tout, Medina à Lens c'est
pas un joueur, non ? Ils veulent venir à l'OM et ils veulent devenir des ils veulent s'inventer une vie de gangster un peu, tu vois.
C'est un peu comme quand les joueurs signent dans certains clubs.
Non mais tu vois,
Quand
tu vois que Balerdi dans un rôle, il veut toujours, il vient vilipender les joueurs avec qui il est au marquage. Il vient gonfler les muscles quand il harangue le public. Mais quand il tourne le cul dans une action décisive contre Lille sur l'égalisation de Meunier. Mais c'est là en fait qu'il faut être. C'est là où quand tu veux représenter ce maillot, c'est là qu'il faut faire le tour.
T'es en train de me dire qu'ils ont pris une assurance, pas forcément légitime.
Je trouve qu'il y a
excessive.
Mais ça vient pas que de là. Ça vient aussi de la direction. Parce qu'à partir du moment où tu penses que tu peux te passer d'Adrien Rabiot parce qu'il y a eu une altercation, une bagarre.
On va pas loin. C'est le péché originel.
C'est quand même la base des problèmes.
Moi, les gars, Jimmy. Je veux bien vous rejoindre. Ok, moi je vous rejoins tout à fait sur l'avoir Adrien Rabiot, mais on est tous d'accord quand même qu'avec l'effectif que tu as là à Marseille, tu dois pouvoir finir 3e tranquillement.
Mais sans problème, sans Rabiot l'année dernière. Sans Rabiot l'année dernière, tu fais cette saison.
D'accord, mais t'as recruté des gens depuis l'année dernière. Je termine juste là-dessus. Ce que Ludo disait, oui, il y a peut-être on a peut-être un peu surévalué certaines personnes, etc. Oui. Mais j'ai pas l'impression d'avoir que Marseille ait recruté des joueurs en bout de piste, en fait.
Ouais, j'aimerais revenir là-dessus.
Est-ce que Medina, il était mort à Lens? Est-ce que Pavard, il jouait un peu moins? Mais le mec, il est finaliste. Il est champion, il a existé, tu vois.
Le débat doit être un peu plus quali là-dessus. C'est-à-dire qu'on doit aller un peu plus loin que les noms.
C'est ça que je veux.
C'est intéressant.
Je connais pas dans l'instant.
Tu vois, pour moi, ce n'est pas que des noms des mecs qui étaient complètement cramés.
Ah, d'accord, Ludo pour conclure. Pour
le remercier. Ludo, il reste.
Ah oui, Ludo est là.
Non, mais il reste avec moi.
Tu restes encore un peu.
C'est qualité.
Un petit peu après. Bah oui. Non, mais c'est surtout.
Tu fais une pause et tu reviens après.
Non, mais c'est surtout, quand il faut négocier le contrat, quand il faut venir et que après il faut porter le poids du maillot aussi. Bien je veux sûr. Dire quand t'as pris la responsabilité de venir parce que tu t'es dit je vais finir ma fin de carrière avec cette ambiance de fou, avec ce public de fou, je vais me faire une fin de carrière super, je vais vivre un truc de fou. Ouais, mais le truc de fou, il faut le vivre à fond. C'est-à-dire que tu peux pas le faire qu'à moitié. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent la moitié des. Quelqu'un comme Højbjerg par exemple cette saison. Tu peux me dire ce que tu veux.
Il joue quand même.
Il est là un match sur trois.
Ouais.
Un match sur trois.
Tu parles du niveau là.
Et t'as beaucoup de joueurs comme ça. Ouais. Alors Walid parlait de d'Aubameyang. Alors c'est vrai, il joue trop. Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'à la base, il revient, c'était pour suppléer ou en tout cas amener
Robinho va
sur une rotation Coupe d'Europe. De machin. Ouais. On peut quand même pas lui reprocher grand chose au Aubameyang.
C'est aussi le travail de Benatia.
Mais on peut en parler.
Mais doublé contre Newcastle, il te met des buts hyper importants. Je sais plus dans quel. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a montré l'exemple.
Après, dans le jeu, il y avait des pubs RMC quand il bossait. Hein,
ouais.
Pour payer les comptes.
Faut avoir un peu d'argent. Ouais.
Faut en faire une.
Mais faut revenir sur.
Allez, on revient dans un instant. À tout de suite sur RMC. La croisière de l'After, les 20 ans. Génération After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Sur le bateau de la croisière des 20 ans de l'After. Oui, applaudissez s'il vous plaît, un peu d'ambiance. On est heureux d'ouvrir le bal de cette magnifique soirée.
Ça digère.
Des 20 ans de l'After qui arrivera à 22h, bien sûr, jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Sur le bateau, sur la scène, on est très heureux d'être avec les chercheurs ce soir, avec Kevin Diaz, avec Jimmy Brown. On est à Marcel Ludo Bragna qui refera une apparition dans le 22h minuit. J'accueille David Guzman également. Salut David.
Salut Nico, salut à tous.
Oh, il s'écrit sur salut France 3 David. Fin de soirée, sur le canapé, le gars.
Henri Chapier, le divan.
Tu crois que je suis frais de ta dit, là, comme ça?
Ouais, je suis bien, je suis prêt à me confier.
Ce soir ou jamais, quoi.
Je suis prêt à me confier, je suis prêt à me confesser. Aucun problème.
Quelle assurance, quelle aisance. David, hein, une des incarnations également de Génération After. Pour notre 4e saison, on conclut sur Marseille, bien sûr. Jingle.
J'en ai plus sûr.
Le paraître au Real de Madrid.
Aïe, 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 aïe.
Real de Madrid, j'ai dit.
Aïe, aïe, aïe. J'ai fait bien, bien pire.
Oui, il y a pire que ça. On parlait de Marseille. Je me rappelle d'un avis que tu avais posé sur la table dans Génération After il y a un mois et demi. Tu disais que c'était en gros sceptique sur la capacité d'Habib Bey
que ça arrive
à tirer le meilleur
pas.
De cette équipe là. On n'en est pas là encore
rapidement.
Aujourd'hui. On n'en est pas là aujourd'hui. On peut pas encore totalement juger son passage à Marseille et présumer de ce que la saison va donner pour l'Olympique de Marseille. Toi, est-ce que ce qui se passe là depuis un mois conforte ton avis?
Bah, ça conforte mon idée, mais ça surtout conforte mon idée que je ne sais pas s'il est mentalement et psychologiquement prêt à assumer ce défi. Je crois que Ludo parlait du défi de sa vie, avec toute la pression qui va avec la pression financière d'atteindre le podium. Si après son expérience, la fin d'expérience compliquée à Rennes, où il a évolué tout de même dans un environnement qui n'était pas forcément favorable, on sait qu'il n'était pas accueilli à bras ouverts, est-ce qu'il a cette force mentale, justement, de relever ce défi et d'imposer ses idées?
D'accord. Moi sur l'aspect psychologique et mental, je pense qu'il est béton et
bah, bien sûr, il est béton.
Et que là-dessus, moi, j'ai pas de doute.
Et d'ailleurs, il a été très bon. Il a dit après le match, on a gagné 3 matchs consécutifs. C'est pas parce qu'on a perdu là qu'il faut que ce soit crise, repartir,
sur ça, il est
etc.
Béton. Sur ça, il est béton.
Même si tu gagnes pas Monaco, t'as un calendrier favorable à la fin. Il y a de quoi.
Maintenant, c'est sur la proposition footballistique. Je vais l'attendre.
Tu l'auras pas cette saison.
Oui, mais déjà cette saison, mais je l'ai pas non plus. Je l'ai pas eu à Rennes. Je l'ai pas eu. Là sur ça, oui, d'accord.
Mais la proposition,
footballistique qui t'amène à des résultats. C'est oui, ça. Wally, pour moi, les matchs contre Auxerre et contre Toulouse, en fait, tu fais 5 matchs comme ça, tu les gagnes pas. C'est en fait, la direction qu'il prend, notamment contre Toulouse, c'était circonstanciel sur la fin de match où il met un 3-5-2 en faisant rentrer Nadi, en fermant le jeu, etc. Tu peux le faire post-choc traumatique après Toulouse contre la Coupe de France. Mais bon, 3-4 matchs après, ça pourra pas tenir. Il reste 6 matchs. Il faudra inventer quelque chose.
Wally, mais s'il bat Lille, là, c'est un scandale. S'il bat Lille 1-0, c'est un scandale.
C'est pas un scandale, mais c'est immérité.
Mais d'accord,
mais j'ai pas vu Auxerre ni Baudard du match. Verdon qui n'a pas eu un contre 1 face à Montpellier.
C'est à côté contre lui, Kevin.
Mais d'accord, mais un partout, Marseille sont plus près de marquer le 2-1 que de prendre le 2-1.
Ah bon, c'est quoi les grosses occasions?
Bien sûr,
c'est de Guiri.
Laissez parler Kevin.
On peut aussi renvoyer ça contre Lyon, Kevin.
D'accord, mais on peut tout renvoyer contre tout le monde en fait.
Il n'y a pas de marge de manœuvre.
Le problème qui se passe, c'est que les gens attendent un truc d'Habib Bey que cette équipe, cet effectif n'est pas capable de donner.
C'est ça.
Et c'est ça le problème. Et c'est ce que disait Daniel il y a quelques semaines, et je suis complètement d'accord avec lui. C'est que on a une attente. Les supporters ont une attente. Les Walid Acherchour, les consultants ont une attente avec l'Olympique de Marseille.
Mais ça devrait être quoi, important. Surélevé par rapport à la qualité de l'effectif.
Je peux finir ma phrase. L'OM a gagné un titre majeur en 30 piges.
C'est quoi le rapport?
Non, mais
c'est
pas l'histoire.
Je vous dis que vous regardez dans tous les grands pays.
Non, là, tu vas faire une leçon de professeur.
Non, moi, je te le dis. Dans tous les grands pays. Dans tous les grands pays.
S'enfonce.
Que ce soit Sporting, que ce soit Benfica, que ce soit Porto, que ce soit les grands clubs turcs. Ils ont tous des attentes, leurs supporters, non, okay. Les médias.
Mais quel rapport? On se dit pas d'être champion.
Soyez des concrets, Kevin.
Bah, je te parle des concrets. Vous avez une attente avec ce club.
Parler.
Vous attendez que ce club fasse des choses qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans. Point.
Et donc, c'est pour notre intérêt.
On attend un
budget, Kevin. C'est quand même pas démesuré.
On avait un entraîneur à Marseille qui était extraordinaire. C'est un entraîneur que normalement tu n'as pas à l'OM.
De Zerbi.
Les gens disaient, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Là, c'est plus possible. Il faut qu'il s'en aille. Habib Bey arrive. Pas d'expérience, mais ancien joueur, ancien capitaine. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à faire là. Quand c'est le pote de Longoria, là, l'espagnol qui était à Villarreal, ah lui non plus. Ah qu'est-ce qu'il a? Il a pas le droit.
Après, on peut aussi aller voir la vérité.
Je n'ai pas fini. Igor Tudor, qu'est-ce qu'il fait là? Il a entraîné qui? Il vient de Vérone.
C'est lui qui voulait partir, Igor Tudor.
C'est quoi ton point?
C'est pareil.
Tout le monde
était
contre Desherby.
Il faut être lucide. Et pour moi, le seul qui est lucide, c'est Habib Bey. Écoutez-le, arrêtez de dire ah ouais mais il parle bien, ah ouais mais il fait des belles analyses. Écoutez-le, ce qu'il dit, c'est la vérité.
Est-ce que tu as vu la
verticalité? Vous voulez pas être dans la vérité,
vous êtes dans l'intensité.
Vous voulez être dans un fantasme. Mais il vous l'a dit après le match. Il vient de le dire Walid. Ça sert à rien d'être catastrophé. On a gagné des matchs, on s'en est bien sorti, mais on a pris les points.
Mais oui, mais ça, c'est des mots, c'est du verbe.
Mais c'est les mots, c'est du verbe. Mais entraîner, c'est que parler.
Ouais, non, mais là,
c'est pas.
Tu nous as fait un détour, une leçon d'histoire de Marseille qui ne gagne plus 30 ans, donc je ne gagnera plus pendant 30 ans.
Vous avez des attentes.
On parle pas d'un titre champion, on parle
qui n'arriveront jamais.
Kevin, excuse-moi.
Moi, je compare de l'effectif.
Oui, d'accord. On va parler de l'effectif. Mais il faut quand même répondre à ces inepties. C'est qu'à un moment donné, Kevin, je suis désolé.
Ça veut dire quoi une ineptie?
Un ineptie, ça veut dire des erreurs, des gros grotesques. Bref, Kevin, dans deux semaines, là, tu perds à Monaco, t'es sixième de Ligue 1. Ok,
c'est de la faute d'Habib Bey.
Mais c'est pas de la faute d'Abibay, mais on parle de l'Olympique de Marseille par rapport aux exigences que tu as eues ou que
non,
tu as.
C'est toi qui as des exigences.
Mais
non,
mais l'exigence que j'ai, c'est d'être sur le podium facile. D'accord. Par rapport
aux. Pour l'instant, ils y sont. Non, mais. Alors on parle, ils y sont.
Mais ils y sont, mais je te dis.
Alors
que...
on parle, ils y sont.
Mais est-ce qu'on n'est pas. Est-ce que tu. En fait, j'ai compris un truc, Kevin. Je sais pas si c'est ta nouvelle fonction de directeur sportif. On ne peut plus parler de football ici. Soit tu regardes les matchs, soit tu travailles plus. Non, mais on n'a plus le droit de parler de contenu de football avec toi.
C'est un fantasme.
Aux émissions, en fait.
C'est un fantasme.
Non, mais si on a plus le droit de parler de dynamique, d'inquiétude.
Là, on n'est pas dans le football, on est dans les résultats. Donc toi, il doit avoir des résultats. Mais tu viens de dire, il a gagné 3 matchs, il m'a rien montré.
Mais je t'ai connu.
Ça ne va pas. Quand il gagne, ça ne va pas. Quand il perd, ça ne va pas.
Mais je t'ai connu en 2019 à nous parler de l'Ajax, du contenu, de
et alors,
du processus
en ce moment, l'Ajax,
de jeu.
Ils sont nuls, par
mais
exemple.
Non, mais de processus de jeu. Là, aujourd'hui, tu me parles de tableau Excel en disant résultat, résultat. Pour l'instant, ils sont dans la merde s'ils perdent contre Monaco.
Et ils aujourd'hui, ont pas encore perdu
et aujourd'hui, tu es en train de nous expliquer que toi et Daniel, vous dites que les attentes sont beaucoup trop importantes à Marseille. J'ai l'impression que les gens demandent une Ligue des Champions ou une demi-finale de Ligue des Champions. On te demande un podium avec des salaires exorbitants.
Ça fait combien de temps que Marseille, l'Olympique de Marseille de cette année, d'accord, ce club dont tu parles, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été deux fois consécutifs en Ligue des Champions?
Mais aujourd'hui,
réponds à la question. Ça fait combien de temps?
Deux fois en Ligue des Champions
d'affilée.
Ouais, ça fait 10 ans.
D'accord. Okay. Donc, est-ce que c'est la normalité? Est-ce que c'est la normalité, oui ou non?
Mais ils ont fait deux fois podium, deuxième et troisième.
Est-ce que c'est la normalité?
Donc toi, tu dis quoi? Tu dis que c'est pas grave si financièrement c'est cinquième?
Je dis pas que c'est pas grave. Je dis que ce sera très grave financièrement.
Mais c'est un échec monumental.
Pas de problème. Mais l'échec, il ne sera pas d'Abibay.
Mais on va parler de ça.
T'es dans les cordes.
Franchement, mais tu es en train de prendre l'eau. Pour revenir sur l'effectif.
Alors, c'est quoi ton analyse?
T'es dans les cordes, Kevin.
Vas-y, c'est quoi ton analyse?
Tu nous ravages l'histoire depuis 30 ans. Ils n'ont rien gagné. Ils n'attendaient rien de Marseille. On se demande juste si Marseille a la capacité.
Jugez Marseille des résultats.
Tu poses une question, laisse-moi te répondre. À l'effectif, pour terminer, simplement 3ème de Ligue 1. Simplement, être en Ligue des Champions.
Monaco, non? Monaco, non?
Mais Monaco, ils n'ont pas l'effectif. Je voulais qu'on parle de la qualité de l'effectif. Est-ce qu'on l'a surévalué, cet effectif-là? Est-ce qu'il est à sa place aujourd'hui? Est-ce qu'il s'y termine 5e de Ligue 1?
Nico, parce que encore une fois, moi, en début de saison, quand je vois l'effectif, pour répondre à ce que disait Jimmy avant la pub, je regarde le menu.
Personne n'est en bout de piste.
Je regarde le menu, je regarde le cuistot, je regarde les ingrédients. Je me dis, mais ça fait deuxième les doigts dans le nez.
Okay,
moi je le dis, sincèrement, les recrues, etc. Et je vais pas être hypocrite
mais
là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que le cuistot m'envoie un plat.
Il est parti.
Le plat, il est froid. Le plat, il est mauvais.
Non, le cuistot, il est parti.
Non, mais au-delà du cuistot, même
le cuistot, il est parti.
Même quand le cuistot.
Il voulait faire une viande, c'était Rabiot, il est parti.
Mais encore une fois, je te répète, il y a
Malherbe, il devait être dans la sauce, il est catastrophique.
Maintenant, il y a eu une gestion émotionnelle des dirigeants sur certains cas, notamment celui de Rabiot.
Catastrophique.
Moi, j'ai jamais adoubé et j'ai toujours trouvé la gestion très très compliquée. Et je pense que tu le fais.
Est-ce qu'elle est que émotionnelle ou financière? Ils ont fait 3-4 recrues derrière qu'ils n'auraient pas fait.
Émotionnelle et financière. Et maintenant, il y a aussi un problème, c'est que par rapport à la qualité des ingrédients, au prix acheté des ingrédients dans ton effectif. Il y a un énorme décalage. Moi, je pense qu'il y a un énorme souci au milieu de terrain de profil. Quand tu es obligé de jouer avec Kondogbia, Højbjerg et Timber, qui sont pour moi des joueurs beaucoup trop lourds, il me faudrait un Timber plus un joueur technique, il me faudrait un Kondogbia plus un joueur technique, et que tu as failli complètement dans les profils techniques. Angel Gomez, ça n'a pas pris. Abdelli, ça prend pas. Vermeeren, qui était pour moi l'un des cerveaux et qualité technique devant la défense, ça n'a pas pris pour plein de raisons émotionnelles, mentales, etc. Aujourd'hui, tu te rends compte que cet effectif-là, on est bien évidemment loin du compte par rapport aux espérances. Et que oui, quand tu goûtes ce plat-là que nous a fourni Mehdi Benatia, qui au passage, à l'époque, moi je trouvais ça très intéressant, la réalité c'est que ça ne prend pas. Ça n'a pas pris avec Dezerbi, ça ne prend pas avec Habib Bey.
Pour moi, l'erreur, c'est de les avoir condamnés. Tu vois, t'as parlé dans ta phrase de O'Reilly, d'Angel Gomez, de Vermeeren. Est-ce que vraiment on les a jugés sur la durée, ces mecs-là?
Et sur le manque de stabilité, il y a eu une erreur là-dessus. Et surtout, quand tu te rends compte que l'année dernière, est-ce que Rabiot, Rongier, Højbjerg, c'était un moins bon milieu de terrain qu'aujourd'hui? Je dis non. Et pour moi, le football se gagne au milieu de terrain.
Mais
c'est un problème régulier de l'OM.
Oui, c'est que parler d'Abibé, on est passé à autre chose.
Mais si on regarde dans le pourcentage de recrues de l'OM, il y a beaucoup trop de recrues d'opportunités. C'est-à-dire que toutes les recrues, quasiment, c'est une recrue d'opportunité. Quand tu prends Angel Gomez, tu le prends parce qu'il est en fin de contrat, tu peux faire un billet.
Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un super coup.
super à l'époque.
Non, mais on dit que c'est un intéressant.
Non, mais non, mais
il avait joué
en
équipe d'Angleterre, le mec.
Joueur
international.
Jimmy,
ce que je veux dire, c'est que Egan Riley, encore une fois, c'est un recrutement d'opportunité. Vermeeren, tu le prends parce que Rabiot part, c'est un recrutement d'opportunité. Abdelli, tu le prends parce qu'il a 6 mois de la fin de contrat.
C'est plus au Riley. Mais ça, David, ça, t'es obligé en Ligue 1 aujourd'hui. Mais non, si t'es l'OM, t'es obligé.
Non, t'es obligé parce que tu te mets aussi dans le rouge avec des recrues que t'as achetées trop cher en indemnité et en salaire. Donc ça te pousse à te. Et aussi parce que tu surpayes Medina parce que tu veux devancer la concurrence.
Après, faut pas être hypocrite quand Gomez arrive.
On était très contents
de les émissions. Il y a un moment donné,
on est obligé de faire le bilan après.
Après, factuellement,
on est obligé de faire le bilan après.
Les gars,
bien évidemment, factuellement,
tout le monde se parle dessus là, le bateau tank, c'est le bordel. Vous êtes survolté.
C'est bien l'after.
Donc on va faire une pause. Je vous dis rapidement, on en parlera également que Mo Salah a annoncé qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison.
Très bonne décision.
Surpris totalement non plus. Saison de trop pour lui, certainement. On en parlera également dans la deuxième partie de Génération After. On parle d'Ekliouche également dans un instant. Mérite-t-il désormais incontestablement sa place en équipe de France au Mondial? Reste avec nous, Génération After, en direct du bateau des 20 ans de l'After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
En direct du bateau et la croisière des 20 ans de l'After. Merci d'être avec nous, le public, ici en folie, bien sûr. Ouais. Avec Jimmy Brown qui est toujours là, avec David Guzman, Kevin Diaz, Meda Cherchour. On est redescendu un petit peu ou pas, les gars? Ça va, tranquille?
On est redescendu.
C'est vrai qu'on s'est mis à 4 sur les côtes de Kevin quand même.
Après Kevin, le problème, c'est que.
Les micros sont quand même solides.
Quand il est comme ça, c'est très très dur.
Est-ce qu'il est écœurant, comme tu dis?
Ah, quand il est comme ça, il est écœurant. C'est très très dur.
Il adore. Ouais,
mais bon, les gars.
Qu'est-ce qu'on ferait sans Kevin?
Après, je vous ai dribblé assez facilement.
Bon, ouais. Un mot rapide de Mo Salah, quand même, les gars. Arrivé à Liverpool en 2017. Deux titres en première ligue, une Ligue des Champions également. Il n'y a pas de question à poser. Légende absolue du club, de première ligue également.
Les yeux fermés,
bien sûr.
Les yeux fermés.
La seule question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il fait l'année trop? À la limite, c'est pas grave.
Pour moi,
c'est réalisé ce qu'il a réalisé.
Pour moi, Nico, c'est un cas qui sérieusement pourrait se poser dans je ne sais pas quelle business school américaine ou anglaise.
J'aime que tu me regardes comme ça.
Qui étudie les transferts. Parce que ce soit le cas dont, pour Liverpool, donc les trois fantastiques, il y avait Sadio Mané, il y avait Mo Salah et donc Bobby Firmino. Et les grandes discussions sur les dernières saisons, c'était est-ce qu'ils doivent les prolonger, arriver à cet âge-là, en comparaison de la politique du Real Madrid, qui dit que, je sais pas si c'est vraiment réel, mais qui dit que passé 30 ans, tu ne prolonges que d'un an, peu importe la star, peu importe le joueur. Et moi, je pense que, on le disait déjà l'été dernier, bien sûr, il fait une saison stratosphérique, mais lui donner ce salaire-là, 500 000 par semaine, c'est ça?
C'est ça,
500 000 par semaine. Plus le nombre d'années de contrat à cet âge-là, où il y a quand même très peu de certitude sur ta capacité à répéter les efforts avec cette intensité de la première ligue, etc. Franchement, bonne chance aux directeurs sportifs de ces, ou de, aux présidents de ces clubs-là, parce que c'est pas des choix faciles à faire avec des légendes pareilles. Mais en tout cas, ce cas-là a montré qu'il fallait faire comme ils ont fait pour Bobby Firmino et Sadio Mané. C'est-à-dire leur serrer la main.
Ouais, mais entre le moment où ils sont partis et aujourd'hui, Salah, il a quand même très très bien performé, même plus que bien performé.
À, c'était pas les mêmes fins de contrat, quoi.
Oui, non, mais là, ils auront aucun mal à le sortir l'été prochain.
Après, cette décision, elle est facilitée par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'à l'époque, Arsenal avait fait la même erreur en prolongeant Özil et Aubameyang. Ouais. Et après, c'était retrouvé bien embêté pour les sortir. Mais maintenant, avec cette porte que tu as de l'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça te facilite plus la tâche où tu dis un joueur comme Mo Salah, avec la qualité, avec le profil, avec le potentiel marketing qu'il a.
Surtout ça, la place sur le monde arabe.
Exactement, il a forcément une porte de sortie.
Il n'y aura aucun problème pour sortir.
C'est exactement. Mais c'est
parce qu'il y a l'Arabie Saoudite.
Avant l'Arabie Saoudite, je pense que les clubs se posaient largement plus la question et c'était bien plus légitime.
Et il y a un autre cas, c'est Van Dijk. Hein. Parce que les matchs de Van Dijk en ce moment, il a eu aussi une prolongation incroyable la saison dernière.
C'est plus le plus dur aujourd'hui.
Ah ouais, là, c'est le moins dur.
Est-ce qu'il n'aurait pas ne pas prolongé justement le plus important, que c'était Trent en fait, se focaliser, même s'il a
il pouvait pas faire les trois.
Un peu de niveau, on voit que ni Frimpong, ni Connor Bradley, ni Joe Gomez, ce qu'on jouait ont vraiment.
Il y avait eu le cas aussi Sadio Mané qui était parti au Bayern Munich, pas pour ces raisons-là, parce qu'il ne pouvait pas avoir deux extensions. Maintenant, pour revenir sur la carrière du joueur.
Parlons de
Salah
quand même.
Le joueur, c'est légende absolue. C'est un mec qui arrive de la Roma, qui fait 15-15 à l'époque. Mais on se dit, est-ce qu'il va véritablement faire passer un cap à Liverpool? Liverpool. Il arrive avec Mané, Firmino. C'est l'une des. On parlera de la MSN et de la BBC à vie parce que c'est un trio, c'est des trios exceptionnels. Mais ce trio-là, Firmino, Salah, Mané, c'est très 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 haut. Et ce qu'ils ont réalisé avec Jurgen Klopp, c'est complètement dingue. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, quand tu regardes les matchs de Mohamed Salah, faut relativiser en pensant à sa carrière parce que
faut les rappeler contre... aussi qu'il y a eu l'embrouille avec Arne Slot qu'il a failli partir au moment d'avoir la CAN, il dit c'est mon dernier match
mais aujourd'hui il a les jambes qui sont dévitalisées, il n'y a plus rien, il n'y a plus un contrôle, il n'y a plus
une il en met une belle typique Salah en Ligue des Champions.
Oui, mais tu vois la première
mi-temps est-ce qu'on a le droit de sa CAN, il y a le mental du champion, il y a le dernier, peut-être potentiellement le dernier match en Ligue des Champions contre le PSG.
Je trouve que c'est même intéressant d'envoyer sa décision comme ça, d'avoir 6 derniers mois à Liverpool, ça va le libérer, mais c'est vrai qu'en ce moment physiquement, et après c'est normal. Kevin le disait tout à l'heure, c'est très très dur de percevoir quand ça va s'arrêter pour un grand champion,
pour un joueur avec ces qualités-là en plus.
Et surtout justement ses qualités.
C'est sur ses qualités en fait.
Si on en parle de ses qualités, est-ce qu'on a le droit de penser que même si c'est un joueur de déséquilibre, il n'a pas une technique soyeuse comme certains ailiers qu'on a connus.
Il n'a pas vraiment de plan B en réalité.
Après, tout dépend ce que tu appelles la technique. Parce que quand même,
il a une technique, mais je veux dire, c'est pas soyeux,
le rapport au ballon.
Sur l'esthétisme, oui, il y a des joueurs, je préférais des Nazar tous les jours. Maintenant, l'efficacité, l'explosivité, le mélange qualité technique et qualité vitesse.
Par contre, il ne faut pas tirer un pénalty. C'est le pire tireur de pénalty des 20 dernières années. C'est incroyable.
Daniel Mossouf Labax, il n'a pas le pied gauche de Kevin. Mais presque quand même, Mohamed Salah.
Et puis
en termes de soyeux, quoi, sur les coups francs,
c'est vrai.
Je ferai pas de commentaire.
Et puis athlétiquement, c'est un mec qui a une régularité, une éthique de travail dans un championnat le plus homogène et le plus dur à jouer. C'est énorme.
David.
En début de saison dernière, je trouvais moi qu'il s'était réinventé. C'est vraiment le meilleur joueur du monde sur la première partie de saison dernière. D'ailleurs, il s'était réinventé un peu plus playmaker,
jusqu'au
un peu
PSG,
plus
jusqu'à Nuno Mendes.
Exactement.
Nuno Mendes, arrêt, terminé.
Mais surtout sur Salah, c'est son inclusion dans la ville, c'est une des dernières légendes qui a vraiment compris ce que Liverpool représentait, et même si c'était un joueur qui n'a pas grandi bien évidemment au Royaume-Uni, il était hyper important pour la communauté, ce que toutes les légendes de Liverpool ont toujours fait.
Top 3 légendes de Liverpool,
bah, Salah. C'est difficile parce que t'as quand même en fait époque...
Je pense qu'il est dans la discussion quand même, il s'installe à cette table-là quand même.
Tu n'es pas champion, première ligue,
époque moderne,
époque moderne, bien évidemment.
Beaucoup plus qu'il s'assoit sur 21e siècle.
Non, mais après, ça dépend.
Époque première ligue.
Première ligue, complètement.
Sportivement, il est devant Stevie G. Sportivement.
Au palmarès, ouais.
Gérard n'a pas gagné de première ligue.
Au palmarès, oui.
Sur la régularité.
Attends, question, Kevin. Tu mets Steven Gerrard au-dessus de Mo Salah?
Tous les jours.
À Liverpool?
Non.
Moi, je pense qu'il y a débat.
Non, mais attendez.
Laissez-le développer.
Steven Gerrard, il n'est pas au-dessus de Mo Salah pour les supporters. Des accomplissements.
Pour les supporters, c'est différent.
La tâche, peut-être. Mais sur les accomplissements sportifs.
Même pour moi, c'est.
Ah, d'accord, même. Enfin, même, c'est non, un
mais
argument.
Mais attends, que Ludo, il a deux doigts de tomber pour lui en coller une. Il dit là, c'est trop, je peux plus. Ludo, il le regarde.
Moi, pour moi, Gerrard.
Mais les gars,
tu vas en coller une à Walid, on est d'accord.
Seuls les vrais savent, seuls les footballeurs savent.
Mais les gars,
Steven Gerrard,
la vie n'a pas été un long fleuve tranquille à Liverpool. Il y a beaucoup de supporters de Liverpool qui reprochent à Steven Gerrard à l'époque d'avoir failli céder aux sirènes d'Abramovich et avoir déposé une demande de transfert comme Rooney à l'époque. Donc en fait, certes, c'est une énorme légende. Bah si, tu me parles de légende.
Tu me parles de légende.
La légende, c'est dans le cœur des supporters. On a eu exactement le même débat sur Payet est une légende de l'OM. C'est exactement le même débat.
Non, on l'a pas fait. D'autres l'ont fait peut-être.
Mais il y a eu des débats sur Payet, légende de l'OM.
On va le faire. En termes de palmarès,
c'est sur le plan émotionnel.
Les gars, il y a deux PL, une Ligue des Champions.
Il y a un temps qu'on n'a même pas connu, nous.
RPL. Non, mais donc depuis le début des années 90.
Depuis 90.
Je vais pas sortir Yann Rush, Kenny Dalglish et...
On les a pas vus. Mais je te dis sincèrement que sportivement, pas en termes d'attache, en termes d'icône, bien évidemment que Liverpool c'est Gerrard, c'est Liverpool. Ça, sur ça, on peut pas aller le chercher. Mais sur ce qu'il a fait,
les accomplissements,
en termes d'empreinte sportive, les gars, il a récupéré Liverpool quand il est arrivé à Liverpool.
Bon, c'était énorme.
Il y a Klopp, hein. Mais c'était une équipe qui était au fond du trou. Et derrière, ce qu'il a réalisé, je sais pas si on se rend compte, même les statistiques, les buts en première ligue.
Moi, c'est plus l'impact.
Les City Liverpool.
statistiques, c'est plus l'impact.
La qualité de football qu'il y avait dans ces City
l'impact
Liverpool,
sur la communauté,
où Salah, il marchait sur City. Je sais pas si on se rend compte de
tout
ça.
Et puis le professionnalisme du gars, le mec.
Ah oui, oui, complètement. Ouais.
Jamais un
des deux. Pour moi, c'est top 3 RPL. Terminé. Gérard Suarez, Salah, sur le top 3 RPL.
Voilà. Terminé pour Liverpool, pour Mo Salah, adversaire du PSG, mais sur la Ligue des Champions, tu l'as dit, Nuno Mendes sera sûrement face à lui parce que malgré sa forme déclinante, il est titulaire à chaque match. C'est le choix d'Arne Slot qui n'a pas beaucoup d'autres choix sur ce côté droit de l'attaque de Liverpool. Rendez-vous en quart de finale, aller et retour de Ligue des Champions. Dans un instant, on va passer au d'accord, pas d'accord. Nouvelle rubrique dans Génération After. On parlera d'Akliouche aussi. Dans le d'accord, pas d'accord, il y a une question. D'accord, pas d'accord, vous restez avec nous.
Moi, je suis déjà pas d'accord.
Et avec Kevin, depuis le début de l'émission, j'ai marqué. Rien ne vous unit.
La séquence va être intéressante.
C'est marrant. Hein. C'est pour ça que ça marche, Génération
Exactement,
After.
Exactement, oui. Voilà.
Allez, pause dans un instant la suite en direct de la croisière des 20 ans de l'After. Merci d'être avec nous en direct sur RMC et ici physiquement sur le bateau. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
La deuxième heure de Génération After, la quatrième saison Génération After déjà. Merci d'être avec nous avec Kevin Diaz qui fait une grande émission pour l'instant. Solide sur les appuis.
Ah, il est solide, hein.
Malgré les agressions de Walid Acherchou.
Ah ouais, quand même. Agression.
Et de Nicolas Jamain. David Guzman est là également.
Pressing, je
Alors, j'ai dit Georges Best, effectivement, vous parlez de Liverpool. C'est une honte absolue.
Hein. Ouais, c'est une catastrophe.
T'as vu, on l'a pas repris. Hein,
j'avais du rouge dans la tête.
Et j'ai dit reprends-le. Genre...
Mais je le dis.
Moi, je suis un joueur collectif.
Georges Best, c'est Everton, c'est ça? C'est le mec qui s'en fait.
C'est mieux que le dis.
C'est Newcastle.
C'est David Guzman est toujours là. Et puis, on va accueillir une voix de l'after également.
Ah oui.
Simon Dutin est avec nous. On est heureux de l'accueillir. Salut Simon.
Salut Nico. Salut les gars.
Merci. On retrouve également dans le podcast Golf, hein, Simon, bien sûr, hein, l'incarnation du golf à RMC avec JC Drouet, notamment.
Quel meilleur, JC Drouet ou Simon Dutin?
Simon
Je
Dutin.
Je laisserai JC répondre à cette question.
C'est Simon Dutin, depuis qu'il a 2 ans, il joue au golf, le garçon. Par contre, au squash, il est pété. Hein. Et au paddle, encore plus. Hein.
Ah ouais, d'accord. Alors, okay, wow.
Je fais un bon sparring au squash, tu pourras.
Bon sparring pour se remettre en forme.
Ouais. Oh là là.
Jingle Simon Dutin, s'il vous plaît.
Certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même. Ah là là, ouais.
Non, le calanque de Marseille. Ouais.
Le meilleur jingle, parce qu'il faut quand même avoir une pensée pour lui. C'est Roland Courbis qui s'embrouille avec Simon
s'il
Dutin.
S'il vous plaît.
Il faut nous le mettre parce que c'est
excellent. Polo en régie.
Je pense que c'est l'une des meilleures punches de Roland Courbis dans Génération After. Parce que.
Il se découte à quoi.
Ouais, exactement. Et Roland venait quelques fois comme ça pour.
Passer une tête.
Pour
nous recadrer un petit peu aussi.
Et pour nous recadrer un petit peu. Il s'était fait Simon ce soir-là. Ouais. Ah, c'était exceptionnel.
À l'époque, il s'était fait. Il savait pas qui d'ailleurs. Il connaissait pas mon prénom.
Ouais.
Il avait été un peu agacé par.
Il l'a appris au bout de 20 minutes. Et après, derrière,
il l'a oublié très vite.
Bon, salut
on l'a
Roland.
Ou pas on salue Roland, on va le ressortir.
Il est quelque
Polo
part.
Va être actif. Ouais.
Notre Roland à nous.
C'est bon, là, on écoute.
Simon, calme-toi. Mais non, j'en ai marre d'entendre ça.
C'est le nombre de fois nous, qu'on en a marre d'entendre.
J'avoue, c'est émouvant quand même.
Ouais, Roland, notre Roland.
Le d'accord, pas d'accord, les amis. Je me suis dit, c'est l'occasion de lancer cette rubrique sur le bateau des 20 ans de l'after. Le principe, c'est extrêmement simple. 5 minutes en moyenne par débat. Et on passe à un autre débat. Si vous êtes tous d'accord ou pas d'accord, on va plus vite que ça, encore une fois. Pour trancher le débat, ça se jouera à l'applaudimètre. Donc, je vous demande d'être attentif aux questions qui sont assez, assez classiques sur la saison, notamment. Il y aura aussi des questions un peu historiques, football et histoire. C'est parti. Vous êtes 4, les gars. D'abord, vous me dites d'accord, pas d'accord. Et après, on peut dérouler les arguments. Vous n'aurez que 30 secondes chacun, 30-40 secondes pour dérouler. Akliouche fera une plus grande carrière que Cherki. D'accord ? Pas d'accord. Je commence avec Simon pour la gratter. Hein. Simon.
Pas d'accord.
Pas d'accord. Kevin.
D'accord.
Donc toi, tu me dis Akliouche fera une plus grande carrière que Ryan Cherki.
On n'est pas surpris. T'es devenu sadomaso.
Pas de commentaire.
Pas d'accord.
Walid.
Pas d'accord.
Pas d'accord. David.
Pas du tout d'accord.
Il va se faire marcher dessus tous les soirs en fait.
Non mais
c'est incroyable.
Non mais au moins
moi je suis d'accord avec lui en plus. C'est ça la vérité.
Au moins c'est pas un avis tapine, c'est un avis avec beaucoup de personnalité, c'est un impopulaire. C'est un impopulaire opinion.
C'est pas si impopulaire. Je pense que c'est. Ouais. Bah, 70-30.
Aujourd'hui Cherki fait une meilleure carrière qu'Akliouche.
C'est vrai.
Ah, on est d'accord ou pas?
Moi je me projette.
Le meilleur club vient de gagner un titre.
Le jeu c'est la projection dans 10 ans.
Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Non, exactement. Donc c'est quand même risqué de la part de Kevin. Et moi je salue son
courage. Est-ce qu'on
peut aller? Bon après bien évidemment ça vient d'un avis depuis 6 ans. Parce que sinon il dirait pas ça. Mais bien évidemment je salue son courage.
Tu comprendras qu'évidemment j'ai pas fait exprès d'écrire cette question.
Bien évidemment. T'as vu le planning? Tu connais pas parler de Cherki à Akliouche.
Mais en tout cas c'est deux.
On peut développer. Kevin va commencer.
Oui bien sûr. C'est deux trajectoires qui sont très intéressantes puisque Cherki est un joueur plus talentueux. Akliouche,
il est plus jeune,
il a les deux pieds, etc. Il a plus de qualité technique, mais Akliouche est un joueur qui joue plus avec ses qualités et qui est capable. Parce que pour moi, faire la meilleure carrière, c'est quoi? Si ton plafond de verre, c'est ce niveau-là et que toi, tu arrives à le dépasser, voire aller même au-dessus, pour moi, tu as fait une excellente carrière. Par contre, si ton plafond, c'est mon avis. Oui. Je t'ai déjà dit que pour moi, un joueur comme Dries Mertens, sur ce qu'il a réussi à faire au vu de ses qualités, par rapport à un Eden Hazard qui avait mille fois plus de qualité, je trouve que j'ai plus d'acquaintance avec Dries Mertens. Voilà, c'est mon avis. Et ben là, je te dis la même chose avec Akliouche.
On est arrivé aux 40 secondes.
Je finis là-dessus en disant que pour moi, Akliouche a peut-être un jeu où il tire plus de ses qualités par rapport à un Cherki qui a plus de qualité, mais qui pour l'instant est un peu en dessous.
Simon.
De ce qu'il peut faire.
Moi, Simon, tu penses que Cherki fera mieux qu'Akliouche?
Il y a un petit peu de méthode Coué. Kevin l'a rappelé. Le talent de Cherki, il est exceptionnel. Il pourrait être générationnel et on l'a longtemps vu comme un crack mondial. Il a été au stand pendant longtemps. Il reprend le cours d'une carrière telle qu'on la lui promettait. J'ai l'impression qu'Akliouche, il est plus proche de son plafond que Cherki, tout simplement. Qu'avec Cherki, sky is the limit. Qu'on peut assister à la progression vers un top 3, top 5 mondial avec ce qu'il est capable de faire. Akliouche, je pense qu'il est déjà pas loin. En gros, Akliouche, t'es surpris de ses performances et généralement, Cherki, t'es un petit peu déçu, t'en attends plus. Voilà, si je devais le résumer.
Oui, mais donc ça veut dire que par rapport à Kevin, en fait, Kevin lui estime que Akliouche fera une meilleure carrière que Cherki par rapport au point de départ des deux quand ils sont sortis en Ligue 1.
Tout dépend de là où tu places le curseur.
Parce qu'en fait, Kevin, le problème de Kevin, c'est là où c'est malhonnête. C'est qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup.
Un petit peu.
Ouais, vu qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup plus d'attentes envers Cherki depuis le début de sa carrière, il estime que.
Ça, c'est pas de sa faute.
Non, c'est pas de sa faute. Il estime qu'en fait, il faudra juger par rapport aux attentes. C'est-à-dire que si Cherki ne devient pas top 5 mondial, d'accord, et que Akliouche va au-delà des capacités qu'il avait, entre guillemets, par l'observateur moyen, Akliouche aura une meilleure carrière que Cherki. Sauf qu'en fait, c'est malhonnête parce que ça se trouve que Cherki et Akliouche, enfin Cherki fera une meilleure carrière qu'Akliouche.
Oui, mais peut-être ce que tu
pas,
veux dire.
Mais peut-être par pas à ce qu'on attend.
Par rapport aux promesses et aux attentes.
Et Kevin, comme beaucoup de débats, aura gagné de manière malhonnête.
Non. Ou subtil.
Et je rajouterais que ce sera tout à fait assumé.
Oui, sauf que factuellement, ce sera faux.
David.
Non mais
et après on passe à un autre.
Kevin, moi je suis un peu surpris de ton avis dans la mesure où le test qui lui était proposé cette saison, il est quand même en train de le remplir haut la main. C'est-à-dire que s'insérer dans un City en reconstruction avec les exigences de Pep Guardiola qui est vraiment ultra avare de compliments et qui régulièrement lui s'écarte un peu de cette ligne de conduite pour saluer ses performances. J'ai pas l'impression qu'il y a un mois avant le match, le barrage contre le PSG, t'aurais tenu ce discours par rapport à concernant Akliouche, t'aurais tenu ce discours par rapport à Cherki. J'ai l'impression Akliouche, que j'aime beaucoup, mais est-ce que son dernier mois n'est pas un miroir déformant par rapport à la saison.
Mais dans le match le plus important pour Manchester City cette saison face au Real, Ryan Cherki à Bernabeu, il était où?
Non mais après
non,
ça
mais il répond à la question, il était où?
Mais il répond à la question, il était où?
Il s'est trompé, il y a eu combien au final dans ce match?
Et donc en fait,
il y a eu
donc
combien sur la double confrontation?
Non mais il y a eu combien sur ce match à l'aller?
3-0.
Sans Cherki.
D'accord. Okay. Et retour.
Oui, voilà, le retour, il y a un rouge de Bernardo Silva.
Le retour, il y a eu combien?
Non mais arrête. Mais Kevin, c'est pas des débats honnêtes ça. Sincèrement,
c'est totalement assumé.
Mais où est le Kevin Diaz de 2019? Où mais ressortez-le moi, celui qui est fin, celui qui analyse, celui qui nuance, celui qui parle vrai foot.
Je te parle.
Non mais non, mais arrête avec chaque fois avec tes comment dire tes
provocations,
tes subterfuges.
Avec Ryan Cherki, il faut quand même rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui prennent l'after en cours, qu'il y a bien sûr une touche de provocation dans l'émission, bien sûr. Il faut quand même rester. Ça reste que du football et du sourire. Mais ce que je te dis sur Akliouche et sur Ryan Cherki, je te le dis.
Je l'ai dit
pour d'autres joueurs. Akliouche fera une meilleure carrière.
C'est ça.
Ça veut dire quoi faire une meilleure carrière?
Bah, ça veut dire finir le plus haut.
Plus abouti.
Ça veut dire quoi finir le plus haut?
Qui laissera la plus grosse empreinte dans le football
dont on se souviendra le plus.
Entre Cherki et Akliouche.
Pour des gens comme toi,
on a 30 secondes.
Si vous me ressortez un coup du foulard ou là, trois jongles.
Quel coup du foulard? Il était meilleur passeur de première ligue. Enfin, tu vois, et meilleur passeur de l'Europa League et meilleur passeur de Ligue 1. C'est pas coup du foulard. Allez, stop.
Fini pour ce d'accord, pas d'accord.
D'empreinte.
David, je te remercie. il faut qu'on fasse tourner le micro.
Absolument.
Ouais, merci d'être venu.
Et au vu de cet avis, tu peux laisser le micro.
Et parce qu'on va parler du Real Madrid tout de suite. Et je m'accueille Yannick, qui nous rejoint, auditeur de l'After, qui participe parfois à mes côtés à l'After Espagne. On est heureux de l'accueillir. Bonjour, Montpellier. Salut Yannick.
Salut Yannick.
Salut Yannick. Heureux de t'accueillir. Attention.
Pareil. Pour répondre.
Ah ouais. Là, c'est pas des claquettes. Hein.
Ah ouais.
Là, c'est pas un soupçon de provocation à la Kevin.
Ah ouais.
C'est pas des décibels qui montent à la Walid.
Là, il est en européenne.
Là, il y a de la pointure.
Ah d'accord. Ok.
D'accord. Il y a un mec qui loupe aucun match du Real.
Tu lui mets une grosse pression là. Attention.
Il voit les matchs.
Il y a un mec qui arrive à tout cœur. En plus, j'ai un détracteur du Real à côté, pas loin là.
Il y a des collaborations.
Détracteur.
Alors, du coup, tu diras pas que Georges Best, il a joué à
Lille. Oh là là, il est relou celui-là. D'accord, pas d'accord. La génération After. Attention. Je vous demande de rester calme, d'accord ? Et heureusement, il n'y a pas de courant sur la scène ce soir. On est posé. On ne va pas être naufragé. Le Real Madrid est meilleur sans Mbappé et Bellingham. D'accord, pas d'accord. Walid ?
D'accord.
Oh. Kevin ?
Pas sans Bellingham.
Ah, tu peux répondre à la question, s'il te plaît, Kevin.
Vraiment, vous savez quoi, franchement, on va prendre quelqu'un de Kevin, tu vas laisser ton micro.
En fait, t'es un dodane, t'es un ralentisseur. Et vraiment, tu ralentis tous les débats. Non, mais vraiment, c'est
un dodane, j'adore.
Non, mais d'accord avec Walid Achard.
Non, mais vraiment, fais fluidifier le jeu, en fait. C'est dingue.
Il m'a dessus, avec son dodane. On me découpe le dodane, s'il vous plaît. Cet échange-là, c'est jingle. Dans les 20 ans de génération after, on le ressortira. Nous, on fera ça dans un avion, voilà. Simon.
Je suis d'accord.
Le Real est meilleur sans Mbappé et Bellingham. Deux d'accord, un pas d'accord. Yannick ?
Je suis d'accord.
Waouh ! Bon, c'est un débat qui anime l'Espagne
désormais
aussi.
Après, c'est factuel. Alors vas-y, à l'instant où on parle.
Tu vas commencer, Yannick.
Bah, c'est factuel à l'instant où on parle.
Tu as 45 secondes.
Si on voit le dernier mois, en fait, c'est sûr que ce qui a fait la différence dans l'équipe, c'est pas forcément une question de joueur, c'est une question d'état d'esprit. Quand un joueur comme Brahim Diaz, il s'impose à la pointe du Real, alors que c'est plutôt un mec qui devrait être sur le banc au final, il s'est imposé parce qu'il a beaucoup donné défensivement, il s'est imposé parce qu'il s'est dépassé, il a fait beaucoup de courses, il a fait beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que on n'est pas sûr qu'Mbappé il l'aurait fait, en fait. Même si on va pas lui tomber dessus comme ce week-end où ils sont tombés dessus pour 20 minutes alors qu'il revenait de blessure.
Ouais, j'ai trouvé ça très excessif, moi.
Non, mais c'était excessif, ça sert à rien. En plus, franchement, il revient de blessure. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il ferait ce travail défensif, toutes ces courses qu'il a fait contre City, Brahim Diaz, il a fait des fautes, il s'est accroché. Bellingham, à la limite, il remplacerait le petit Pitarque. C'est un mec, il triche pas, Bellingham. Il court, il a du volume physique. Mais factuellement, là, sur les quatre derniers, sur le mois qui vient...
Le Real n'a jamais été aussi bon que ce sur moi.
Bah, depuis le début de l'année, effectivement, le Real n'a jamais été aussi bon, aussi cohérent, en fait, surtout. C'est ça, là, le Real est cohérent. Maintenant, c'est vrai que si tu mets Mbappé et qu'il fait aussi les efforts, les courses comme Brahim Diaz...
Tu y crois encore ?
Là, le problème, Mbappé, il est parti, et celui qui a repris la couronne, c'est Vinicius. Donc, si Mbappé,
il
veut...
sa couronne, celle qui lui appartenait.
Sa couronne. Si Mbappé, il veut revenir un petit peu, parce que là, les gens, ils ont vu, ils ont dit, ah, il est là, Vinicius, il n'était pas bon avant. Maintenant, il est bon quand il n'y a plus Mbappé, Mbappé, il va falloir qu'il regagne un petit peu aussi du temps de jeu, il va le regagner, mais qu'il regagne un peu le cœur des gens. S'il est aligné contre le Bayern et qu'il ne fait pas les efforts, qu'il ne fait pas les courses d'entrée,
Moi, il y a une nuance sur le d'accord ou pas d'accord, c'est que je pense que.
En fait, tu reproches à Kevin de mettre des nuances,
mais franchement, c'est insupportable.
Je pense que.
Toi, t'es un feu rouge.
Non, ouais.
Un vrai feu rouge.
Moi, je pense que la question, si j'y réponds, c'est d'accord avec Bellingham et avec Mbappé. Je réponds à ta question.
Le Real est plus fort.
Maintenant, on a vu le Real Madrid avec Bellingham. On a vu le Real Madrid. Je pense que un des deux, par exemple, et pas forcément que Bellingham, comme l'a dit Kevin. Je pense que si tu as le milieu de terrain aussi cohérent avec Vinicius et avec Mbappé, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, les trois ensemble, je pense que ça ne fonctionnera pas, parce que je pense que Bellingham prend un champ d'action trop important par rapport à Valverde. Parce qu'il faut rappeler que l'année où il gagne la Ligue des Champions avec Valverde, Bellingham joue faux numéro 9 très très haut ou numéro 10, et notamment les 6 premiers mois avec Carlo Ancelotti où ça fonctionne très très bien. Et que pour moi, dans mon monde idéal, Vinicius et Mbappé ne fonctionnent pas sur un terrain de football avec Bellingham en plus. Sur les champs d'action, je trouve que ça se marche beaucoup trop. Et puis il y a une histoire d'ego. C'est que je pense qu'il y a certains joueurs et certains comportements qui déteignent sur les autres. Et qu'il faut une équipe, je pense moi, de porteurs d'eau, avec un ou deux joueurs qui peuvent sortir du lot. Mais pas forcément que Vinicius ou que Valverde. Il y a un soir où ça va être Brahim Diaz. Il y a une soirée un peu à la Divo Origi, Liverpool, oui. Barça. Où tu sais, il y a un mec qui va sortir du chapeau parce que en fait le collectif travaille tellement. Et ça peut être un Tchouaméni, ça peut être un Brahim Diaz, ça peut être un Arda Güler. Et je trouve que il y a
il y a une manière de tirer la couverture vers soi quand ils sont tous là qui est négative pour le collectif, malheureusement.
Bon, Kevin.
Il vient quand même de nous faire exactement l'argumentaire que j'allais dire. Vas-y. C'est-à-dire que, pour moi, bien sûr, Mbappé, il a les qualités, il va marquer des buts. Mais Bellingham, pourquoi j'ai dit pas d'accord ? Parce que pour moi, Bellingham, il a montré au Real qu'il pouvait se transformer en un joueur d'équipe.
En faux neuf, notamment. En faux neuf, mais offensivement le Real. Hein.
Parce que j'ai entendu Walid sur une autre émission dire que, comme tu viens de dire, qu'il rentre dans le champ d'action de Valverde. Moi, je suis pas d'accord. Valverde, c'est un couteau suisse. Valverde, aujourd'hui, puisque Rodrigo est blessé, Valverde, tu peux le mettre à droite là-bas. Et il va avoir la liberté, il va venir, il va aller marquer des buts, il va faire des courses. Et Bellingham peut très bien jouer en 8 et demi.
Il a pas le grain technique de Pitarch ou de Arda Güler.
Attention,
à côté de
je finis en disant que pour moi, en tout cas, Bellingham est un couteau suisse comme Valverde, et les couteaux suisses dans une équipe, ils arrivent toujours à trouver leur place.
Il aime beaucoup plus la lumière que Valverde. Moi, je pense que, et pourtant, je suis pas un grand fan de Valverde, et Bellingham, je pense qu'intrinsèquement, intrinsèquement, je pense que Bellingham est meilleur que Valverde, et il a une palette beaucoup plus globale. Mais pour moi, Bellingham est le Mbappé des milieux de terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur qui capitalise énormément, qui vampirise énormément, qui a besoin
qui
de place,
de
et qui
aussi.
Prend trop de liberté dans la structure d'équipe, qui peut aussi te mettre en difficulté si tu as Mbappé, si tu as Vinicius,
D'ailleurs, il faut se rappeler qu'il y a dans l'interview de Karim Benzema il y a quelques mois, il avait parlé de Bellingham.
Très bien résumé.
Il avait dit qu'il faut que Bellingham reste dans sa zone en fait. Et c'est ça le problème,
dit,
c'est que sa zone.
Tous les joueurs d'ailleurs.
Ouais, mais
le problème
Bellingham,
c'est que personne ne reste dans sa zone.
Bellingham, là où il a raison,
il aime pas jouer 8.
En fait, on ne sait pas où il joue. En fait, l'année dernière, Ancelotti le faisait jouer à gauche.
Il aime pas jouer 8.
Simon.
Moi, je pense que c'est deux problèmes différents. Je vais essayer de faire court. Le Real, c'est quand même un miroir déformant. Le problème Bellingham, il est moins difficile à régler, selon moi. Je pense que, à l'instar d'un Paul Pogba qui savait rester très sobre et très simple dans son jeu et reculer sur le terrain en équipe de France, Bellingham, ne lui en déplaise, son vrai poste, c'est plus 8 que sa première saison au Real. Ouais,
il a pris goût,
il a pris goût maintenant.
Et je pense que si tu installes un mec que peut-être Tchouaméni est en train de devenir un gars qui contrôle le tempo au milieu de terrain en sentinelle, je pense que Bellingham il peut retrouver une place dans ce milieu de terrain. Le problème
oui,
de
mais
Mbappé...
Simon, tu pourras pas enlever à Bellingham l'idée que ils ont gagné sans Mbappé et que lui était le fer de lance offensif et que dans les titres individuels en fin de saison, pour ces mecs-là, ça compte. Et que l'histoire du sale boulot, c'est pas Pitarch, c'est pas Tchouaméni, Bellingham. Et cette zone de terrain-là, ils préfèrent être dans le dernier tiers, malheureusement.
Et là, on parle des individualités, mais comme tu l'as très bien dit, Simon, Tchouaméni, qu'est-ce qu'il a pas pris ? Mais en fait, Tchouaméni, comme beaucoup de joueurs de cette équipe, quand il y a un équilibre qui est meilleur et quand les gars devant lui travaillent, pour lui c'est beaucoup plus facile.
Il
a pris parce qu'il a remplacé Casemiro et du coup il s'est retrouvé, le costume il était lourd à porter aussi.
Je voulais juste dire Nico parce que on nous dit que c'est facile de répéter les mêmes choses sur Mbappé. Il y a des mecs qui bossent, qui sortent les stats et j'ai vu passer des stats avec de la data sur les 9 des 20 plus grosses équipes en Europe et les 10 distance parcourue dans les deux sens sur le terrain. Et bah tu regardes l'écart qu'il y a entre Mbappé et les 19 autres. Voilà, Mbappé, il court moins que les autres.
Il est très en dessous,
voilà,
bien sûr.
Tu peux le raconter.
Ils l'ont sorti en Espagne.
Et quand tu regardes le niveau de performance de créativité et d'efficacité d'un Vinicius quand Mbappé est pas là, ça dit tout quand même de la façon dont
il accapare
le ballon.
Mbappé ne changera pas. Combien de coachs ont essayé?
Ce sont des deux qui.
C'est l'enjeu là maintenant. Alors il n'est pas obligé de faire toutes les courses défensives, mais en tout cas, il va falloir qu'au moins il fasse
les deux là, Bellingham et Mbappé sur le Bayern Munich, ils ont tout à perdre. Parce que cette équipe là a réussi à battre City à l'aller-retour.
Peut-être qu'ils vont pas jouer. Mbappé va jouer.
Beloa ne peut pas se priver de Mbappé. Voilà. Merci Yannick.
Merci à vous.
À très vite.
Merci pour cette croisière.
Très bon Yannick, il n'avait pas menti Nico. Il y avait une légère surcote, un peu comme pour Kevin Diaz.
Le mec, il met des notes.
C'est très très solide.
Mais pour qui ce mec se prend?
Très très solide.
Merci.
Beaucoup plus Militao que Hyssen.
Merci Yannick, t'inquiète pas. Ouais, on préfère Militao aussi. Même si première intervention sur Hyssen dans l'after, c'était cet été, j'ai dit ce mec-là, il va avoir un ballon.
Dis-moi une question.
J'ai dit pas avoir un ballon d'or.
Quand on est supporter du Real, avant de te libérer, quand on est supporter du Real, on kiffe Rudiger.
On kiffe Rudiger. On aime bien les mecs
de cette saison là.
Ouais, c'est pas, ça dépend. C'est pas
quand il met un tampon.
On adore Pépé. On adorait Pépé. Ouais. Rudiger, c'est une classe en dessous quand même. Mais bon, c'est un peu trop gratuit Rudiger.
Bon. Merci Yannick.
Merci à Yannick.
Au 32-16, quand tu remontes à Paris. Et c'est un grand trailer, hein, Yannick. Attention. Lui, il fait des 80, il fait des 100 trailers.
Toi, t'as fait un 80.
Mais t'as fait plus que moi déjà.
Oui, mais.
C'est quoi trailer? C'est celui qui fait des teasers, là?
Ouais, c'est ça qui fait un trail pour les séries américaines, tout ça.
C'est ça, d'accord.
Bon, restez avec nous parce que dans un instant, on continue les d'accord, pas d'accord. Il y aura cette question. Kevin fait une meilleure saison dans Génération After que Walid. D'accord, pas d'accord. On va en débattre, bien sûr. Ensemble, sur la bateau, la croisière des 20 ans de l'After. Avant la pause, on part sur un jingle Walid. Merci Walid, encore une fois, d'avoir été aussi généreux. On écoute.
Ah, tu peux répondre à la question, s'il te plaît, Kevin.
Vraiment, vous savez quoi, franchement, on va prendre quelqu'un de Kevin, tu vas laisser ton micro.
En fait, t'es un dodane, t'es un ralentisseur. Et vraiment, tu ralentis tous les débats.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After en direct du bateau et de la croisière des 20 ans. Merci d'être avec nous sur RMC. Et vous qui avez la chance d'être là ce soir, bien sûr. Tiens, j'en profite, moment teasing et pas trailer. Walid, nous serons tous les trois avec Kevin le 31 mars à Rennes pour une Génération After exceptionnelle. Et dans la foulée, on prend la voiture, on va dans le Morbihan. Génération After à Lorient avec un très beau plateau. On aura Olivier Pantaloni, Lorient surprise de la saison. Hein.
Pablo Pagis sera là.
Pablo Pagis sera là. Théo Lebrise sera là. Formidable. Exactement, c'est booké. On aura également Laurent Koscielny, nous les Bordelais.
Ah ouais, c'est pour ça.
Tu vois, une des dernières légendes des Girondins.
Ouais,
bon joueur des Girondins.
Ouais.
Très bon joueur des Girondins.
Très grand joueur, mais pas, je pense pas que ce soit aux Girondins, quoi.
Non, bien sûr. Ouais. On parlera de ces 9 saisons Arsenal, évidemment.
Oui, un peu plus quand même. Et juste une petite question, c'est qui conduit? Parce que Kevin, je veux que ce soit toi qui conduis quand même. Parce
alors,
que
le mec, attends.
Nicolas,
c'est très
fois,
bien. C'est fois, très bien que tu dises ça, garçon.
La dernière fois, il m'a conduit à un plus tard là.
Argenteuil.
À Cormeil, non, c'est Argenteuil. Argenteuil, mais c'était une catastrophe.
C'est super.
Sincèrement,
c'est génial. Tu te rappelles qui avait conduit au Havre?
Ah mais voilà. C'était très très
là, bien. Il me fait une passe-dé mais somptueuse, ouais. En réalité.
Ouais.
Parce qu'effectivement il m'a fumé à Argenteuil.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends 3 mois plus tard? Qu'il a plié sa voiture dans un parking en sortant du stade Jean Moins. Voilà.
C'est vrai, c'est
en
pas
sortant
faux.
D'un parking, c'est fort quand
c'est
même.
C'est pas faux.
Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de feu rouge.
Une erreur d'inattention.
Il n'y a pas d'adversité.
C'est un peu comme Saliba à l'OM, quoi. Des fois il y avait des petites erreurs mais il y a un gros potentiel.
Donc je conduirai pour aller à Lorient, les amis.
Sûr que je vienne.
Tiens, Daniel nous a rejoint. Il s'est posé, il a vu un canapé, mais il va prendre un micro puisqu'il est là parce que c'est les 20 ans de l'After. Il faut Daniel aussi, qui lance Génération After, prenne un micro. Daniel, prends un micro, s'il te plaît.
Oui, Nico.
Ça va, Daniel?
T'as vraiment cru que t'allais t'asseoir là, qu'on n'allait pas te parler?
Ouais, mais je me suis dit, j'étais tranquille. J'étais en train de préparer l'émission,
ouais.
Le 22h.
Comme ça, à l'antenne.
Écoutez, ça me suffit.
Bah, il a vu qu'il y avait du débat, qu'il y avait de la qualité.
Allez, dis que tu veux participer.
Moi, je vois Kevin en face à face.
T'as envie de participer.
Il y a juste les popcorn et on est bien, quoi.
Chevalier Las Palais, quoi. Ouais. Sur quoi Chevalier Las Palais 2025, quoi.
J'étais en train de manger, sur quoi ils se sont engueulés comme
bah, sur Habib Bey, sur Cherki Akliouch, sur.
Non, Real, on était globalement d'accord.
Real, plutôt d'accord, ouais.
Sur Salah et Gérard.
Alors là, on peut ne pas être d'accord.
Sur Salah et Gérard.
Ouais, ouais.
Il y a une discussion là-dessus.
Oui, oui. Pour moi, sportivement, Salah a fait plus d'accomplissements que Gerrard à Liverpool.
Tiens, Walid, tu sais que le foot avant 2010, il existait quand même.
Ouais, il existait, ouais. Et le problème, c'est
Steven Gerrard, mon pote.
Ouais, Steven Gerrard.
Tu sais que c'est pas les titres qui font tout dans la vie.
Ah, il n'y a pas que ça, oui, bien
sûr. Non, il n'y a pas que les titres.
En fait, je parle d'accomplissements sportifs.
Mais peu importe.
Ah, d'accord.
On peut aller à Liverpool, on va se prendre par la main, on va défiler dans les rues.
Non, pas l'attachement, pas le côté iconique.
Il
n'y a
pas une seule personne qui mettra Salah devant
Gerrard. Gerrard sera au-dessus chez les supporters. Je te dis que
c'est ça. Les mecs, le canapé fait 10 mètres, ils sont chacun en bout du canapé.
Mais ça veut dire quoi, sportif?
Sur le terrain.
Ça veut rien dire.
Sur le terrain. Où est-ce qu'il a amené Liverpool? Où est-ce qu'il a amené Liverpool?
Steven Gerrard, il a donné la plus belle de toutes les ligues de champions pour Liverpool. C'est
c'est quoi? C'est la beauté maintenant? C'est quoi? C'est Candeloro en fait ou c'est Riolo
c'est
avec
ce qui marque le plus. C'est ce qui marque le plus les gens.
Non mais j'ai pas dit marqué. Voilà. J'ai dit en termes d'accomplissement, en termes d'accomplissement sportif.
Pour les enfants peut-être.
Ah d'accord.
Pour Daniel, c'est pas si évident que tu dis.
Bien sûr que c'est évident.
Tu sais pourquoi c'est évident? Parce que n'importe quel supporter te mettra en avant toujours. Le joueur, ça c'est.
Mais t'es observateur, toi. T'es
toujours.
Observateur neutre.
Il y aura que ça qui compte.
T'es observateur neutre. Je parle pas du supporter. Je te parle d'accomplissement.
Walid,
arrêtez avec votre foot de daron
foot.
Où tout était mieux avant. À chaque fois, il y a des gens.
Le foot des darons. Ouais. Steven Gerrard, c'était 2005.
Bah, là.
On parle pas des années du 19e siècle.
Mais le foot d'aujourd'hui était beaucoup plus compliqué.
Walid, en 2005,
en CM2. Mais ça, là,
ton problème, c'est que tu n'as jamais été supporter d'aucun club. Tu n'as pas d'affect. Toi, tu regardes.
C'est un Union Sport.
Oui, ok, génial. Donc, toi, en fait, tu regardes le foot. T'es comme une machine. T'es là devant et tout. Mais là,
franchement.
Je respecte mon football.
Oui, mais je le respecte.
Tu vas me respecter ce football.
Je le respecte, mais je t'explique comment ça marche pour la plupart des gens. Ouais. La plupart des gens ont un affect avec le foot.
Ah, toi, t'es comme la plupart des gens, toi, maintenant.
Absolument.
Ah, d'accord. C'est quand ça t'arrange, toi, en fait.
C'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on est là, c'est qu'on les comprend, les gens.
Ah, d'accord, ok.
Steven Gerrard, Kevin. Steven Gerrard.
Non, mais moi, je suis. Trou du soutien. Trou du soutien avec
c'est tout.
On passe à autre chose.
Avec Walid Acharchour. Je parle d'accomplissement sportif.
Daniel, on a lancé une rubrique ce soir, le d'accord, pas d'accord. Je balance une affirmation, on fait un tour de table, d'accord, pas d'accord. Après, on développe 40 secondes.
Faut juste dire d'accord, pas d'accord.
Et après, tu peux argumenter.
T'auras 40 secondes. C'est très dur, Daniel, pour toi.
C'est un
tu
préfères élaborer, quoi.
Exactement.
Ok, vas-y.
J'ai une nouvelle séquence de Nico, donc pousse-la quand même.
J'étais allongé sur un transat, sur le pont du bateau. J'ai eu cette fulgurance.
C'est fort, c'est très fort.
Ça n'a jamais été.
Bravo, Nico. Ouais. Bravo.
En fait, les grandes gueules du sport le font tous les week-ends, mais.
Et sinon, ça commence quand?
Ouais, ça va commencer.
Griezmann a plus marqué l'histoire des Bleus que Thierry Henry.
Oui, d'accord.
D'accord ?
D'accord.
D'accord.
Pas d'accord.
D'accord.
On commence par le pas d'accord, évidemment, oui. Comme par hasard. Oui. C'est Kevin Diaz qui n'est pas d'accord avec les trois autres. Kevin.
Bah écoutez, moi je pense de toute façon qu'en France, on a oublié beaucoup trop vite ce qu'a fait Thierry Henry dans le football français, hein, que ce soit en équipe de France et même, bien sûr, dans le reste de sa carrière. Mais pour moi, Thierry Henry, c'est un joueur qui est extraordinaire. C'est un joueur qui est extraordinaire en
96. On n'a pas parlé du reste. Laissez-le
parler,
hein.
Il a 40 secondes.
Mais non, mais s'il ne comprend pas la question.
Bah mais toi, tu comprends pas le principe.
Mais non, le principe, c'est d'écouter Nico. Il y a une question.
Parler,
la question, c'est
l'équipe de France. C'est autour de Frédéric.
Dans deux secondes, il est parti sur Arsenal. Écoute bien.
Non, pas du tout.
Allez, Kevin, finis.
J'ai dit que pour moi, Thierry Henry, il a été le meilleur buteur de l'équipe de France pendant un long moment.
Ce qui ne veut absolument rien dire parce qu'il a joué
pour
à l'époque.
Daniel,
tu jouais contre des
sélections.
C'est 40 secondes, Kevin.
Je recommence mes 40 secondes. Donc,
non, Thierry, non, 25 secondes.
Thierry Henry, pour moi, il a beaucoup plus marqué l'équipe de France.
Pourquoi
parce que.
On veut des faits.
Bah parce que déjà, il a été champion à 18 piges. Un pénalty extraordinaire dans un match avec énormément de tension à 18 piges, c'est extraordinaire pour moi face à l'Italie. Il est décisif dans toute la compétition jusqu'en 2006. Il est encore décisif.
Thierry Henry est décisif en 98.
Dans toutes les compétitions.
Bien sûr qu'il est décisif. C'est le seul qui apporte de la profondeur. Mais c'est le seul qui apporte de la profondeur dans cette équipe.
Maintenant, décisif, c'est apporté.
Mais les gars, là on parle de football. Là on parle de ce qu'il apporte.
J'ai l'impression que
40 secondes sont écoulées.
Là il raconte n'importe quoi. Sur 98.
Je vais donner la parole à Simon.
Mais je te dis qu'il est décisif.
Griezmann a joué.
A plus marqué.
C'est fini entre vous deux. Il a marqué.
Stop,
en plus.
C'est fini entre vous deux, Simon.
Il est fou, quoi.
Oui, alors moi, je vais même pas faire les copains parce que dans l'ordre, je mets Platini 1, Griezmann 2 et Zidane 3.
Ah ouais, d'accord.
Simon,
tu dis où le bar?
Griezmann, c'est un des joueurs les plus.
Je vais prendre une grenadine, là, ça va me détendre.
C'est un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire du football mondial. Il aurait dû être Ballon d'Or en 2018.
Il aurait dû.
Vainqueur de la Ligue Europa, doublé en finale, vainqueur de la Coupe du Monde.
Maintenant, on fait des what
if. Il nous a porté.
On fait des si,
On est d'accord.
Du foot, on choisit Modric. Tu connais mon avis là-dessus.
C'était bien. Revenons sur le débat.
Meilleur joueur de l'Euro 2016. C'est un joueur qui a constamment été sous-estimé. C'est un attaquant généreux, qui sait finir, qui sait créer, qui a du flair, qui a la passe cachée, qui joue avec ses copains, qui est bon esprit. Je pense qu'il y a eu un péché originel dans le fait de pas lui confier le brassard et de le donner à Mbappé, et je regrette. On a appris aujourd'hui officiellement qu'il partait
à Orlando.
C'est un joueur fabuleux qui, pour moi, est
dans les au-dessus de Thierry Henry en équipe de France.
Mais il n'y a pas d'argument par rapport à la comparaison d'un type de Thierry Henry. Je ne comprends pas. Enfin, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, sur le débat, Gerrard, Salah, Daniel va faire exactement la même chose sur Griezmann et Thierry Henry. C'est exceptionnel parce que sur les accomplissements sportifs. Non, mais on est d'accord. Mais sur les accomplissements sportifs, Griezmann, pour moi, est au-dessus de Thierry Henry en équipe de France. Je pense qu'en termes de régularité
et dans l'affect aussi par rapport aux gens.
Sur l'affect, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de
Thierry
ça.
Thierry Henry,
Griezmann, mais il n'y a même pas photo.
Moi, je pense que la régularité, ça n'a rien à voir. Moi, je pense pas la même personnalité.
Moi, je suis pas sûr de ça.
Mais pour moi, c'est pas une vérité absolue. Pour
moi, c'est pas une vérité absolue.
Par contre, ça n'a rien à voir. C'est pas la même personnalité. Griezmann, c'est un gars adorable. Thierry Henry, c'est un gars qui est un peu plus introverti.
Walid, calme-toi.
Par contre, sur les accomplissements sportifs, même si pour moi Thierry Henry c'est très très haut, et pour moi la carrière de Thierry Henry
de Coupe du Monde.
En équipe de France, c'est pas très haut.
La carrière de Thierry
n'est pas très haut en équipe de France. Un euro, c'est pas très haut. C'est pas très haut, c'est bas.
Oui, mais dans ces tournois, il a été moins décisif, moins prépondérant.
Ça n'a jamais été la star de l'équipe. Ouais. Jamais il a porté l'équipe. C'est Zidane qui l'a porté.
Est-ce que Griezmann
a été plus important? Griezmann a été la star absolue.
Mais à l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, c'est qui l'a fait?
Non, il n'est pas la star en 2018.
Si, si.
Ah, si.
C'est
le meneur
pas. Mais c'est
Griezmann. Mbappé.
Mais il est top 3.
C'est
Thierry Henry. Il a même jamais été top 3.
Mbappé, c'est la révélation en 2018. C'est Griezmann.
On n'entend rien.
Thierry Henry n'a même jamais été top 3 dans l'histoire des, dans l'équipe.
l'équipe de France. Il y avait Zidane, il y avait Deschamps, il y avait Blanc. En 2000, il y avait toujours des joueurs plus importants que lui.
En 2000, il n'est pas top 3.
Mais il n'est pas prépondérant.
En 2006, il est top 2. En 2006,
il est pas top 2.
Même Ribéry lui a fait de l'ombre.
Mais non, arrête. Non, mais je te parle au départ, en termes de star.
On peut le renvoyer.
Mais même Ribéry lui a fait de l'ombre. On peut le renvoyer. De quoi vous parlez?
Jamais Thierry Henry n'a laissé son empreinte sur un tournoi gagné ou remporté.
Bien sûr.
Réussi par les Bleus.
Mais là, je suis d'accord avec moi.
En plus, il a la cicatrice Nice Now au milieu de la tronche pour toujours.
Non, mais d'accord, mais ça, c'est autre chose.
Mais c'est pas autre chose.
Non, mais Griezmann, Kevin, sur 2016, 2018, 2022, où il se réinvente, il est mis le relayeur, etc. Thierry Henry n'a pas trois compètes de ce niveau-là. C'est factuel. Il y a un moment, c'est comme pour Salah et Girard. Il y a un moment donné, il faut arrêter l'affect. Il y a des choses qui sont factuelles. On a allumé la télé, on a vu des choses avec certains et on en a vu moins avec d'autres. Maintenant, si vous mettez les sentiments, il n'y a pas de souci. Thierry Henry, sentimentalement, il n'y a pas de souci.
Deux finales de Coupe du Monde, 1 euro. Voilà.
Mais c'est pas que lui, Kevin.
Oui, mais
c'est pas que lui. Mais Griezmann, c'est pas que lui.
Il n'a pas l'empreinte footballistique que Griezmann avait avec l'équipe de France.
C'est quoi les autres?
T'en veux d'autres encore? On doit faire une pause.
Ah, c'était le seul d'accord, pas d'accord.
Non, il y en a plein. On en a fait plein déjà. Tout à l'heure, on a fait Akliou.
Non, mais tu travailles pas ce soir, c'est jusqu'à minuit. T'as pas compris les d'accord, pas d'accord en fait.
Ouais, c'est très bien.
Daniel, réponds à celui-ci qu'on a fait il y a un quart d'heure, mais juste d'accord, pas d'accord. Akliou fera une plus grande carrière que Ryan Cherki. D'accord, pas d'accord. Ah, c'est dur, hein.
Ouais, c'est dur ça.
Ah, mais faut répondre.
Pas d'accord.
D'accord, t'as dit?
Non, pas d'accord.
Pas d'accord.
Ouais.
Dans 10 ans, Lamine Yamal sera une légende du football mondial. D'accord, pas d'accord.
C'est quoi ce pas d'accord?
T'es quasiment convaincu d'accord.
Mais d'accord tous les jours, comment en fait on peut dire pas d'accord?
Là, sincèrement. Je suis vraiment.
Mais ok. Mais on va zapper alors ce moment-là.
Désolé de devoir.
On peut avoir une surprise, Simon Dutin.
Je suis pas d'accord.
T'es pas d'accord?
Eh ben voilà.
Non, moi j'y vais, moi.
Cette rubrique, elle est géniale.
Non,
elle est géniale.
Simon, c'est une mission sérieuse.
Alors on va écouter Simon.
Je vais. C'était juste pour énerver Walid parce que j'adore ça avec
Non, tu m'as dit pas. Avant l'émission.
Non, les gars, sincèrement.
Enfin,
il a le droit d'envisager que le mec va se cracher.
Il y a 99% de chances pour que je me trompe, j'en suis conscient. Et les gars, je regarde le foot comme vous. J'ai simplement peur avec ce jeune homme qui quitte la piste, qui quitte la route. Il a été proche de le faire cet été. Je pense qu'il est très mal entouré. Je pense qu'il a parfois un petit peu les fils qui se touchent. Je pense que c'est une mèche courte. Il s'y voit déjà. Il a 18 ans.
Il a quand même gagné 1 euro avec l'Espagne.
D'accord. À 13 ans et demi.
À 11 ans et demi. Hein.
Il essaye de jouer parfois un petit peu trop tout seul.
Je vais te dire un truc, Simon.
Attends, qu'il laisse son empreinte et je serai le premier à poser le jeu de
l'empreinte, il a déjà laissé.
Tu sais.
Pas à la hauteur des plus grandes légendes, mais déjà pour son âge, il a déjà fait des choses extraordinaires.
J'ai juste peur que ce garçon se perde sur la route qu'il est en train de
prendre. Alors, on s'entend, Walid, quand je dis légende, c'est. Fin de carrière, top 30 de l'histoire du foot. Hein.
Ah d'accord, ok. Donc en fait, il y a 30 légendes dans le football.
Je te dis pas au niveau de Messi, Ronaldo, je te parle de légende.
Mais pour moi, ce sera le joueur ou l'un des joueurs.
Pas galvaudé, légende.
Top 3 joueurs de son époque, l'époque récente, etc. Déjà, ce sera
top 3 de son époque, c'est déjà
bien. Je veux dire un truc, Simon. Le penser, l'imaginer, c'est une possibilité. Bien évidemment, on a déjà vu des joueurs très très talentueux se cracher. Mais pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux qui se disent le voient tous les jours, etc., et ne souhaitent pas que ce joueur-là soit là pendant 10-15 ans par rapport au foot qu'il a dans les pieds, ça par contre je peux pas le concevoir.
C'est gros, c'est que tu
non, pas du tout. Mais toi qui es un fin gourmet, sincèrement. Celui qui essaie d'aller regarder en disant il va se cracher. Oui, bien évidemment qu'il y a.
J'en ai peur.
Veux dire comme ceux qui font ça avec Mbappé?
Et non, Mbappé, c'est différent. Enfin, ceux qui faisaient ça avec Neymar. Par exemple. T'en connais pas. D'accord. Non. Peut-être. Mais juste pour revenir sur ce que je disais.
Je constatais que dans le constat, ça s'est terminé comment?
Pour la santé du football, quand même, on espère que ce mec-là soit là pour les yeux, pour pas aller chez l'ophtalmo.
Encore, d'accord, pas d'accord.
C'est parti, les gars. J'ai ça en boutique, il y en a quelques-uns. Tiens, faisons ça. 4 minutes seulement. L'équipe de France fera demi-finale minimum au prochain mondial.
D'accord.
Ouais, mais les tableaux, etc., on peut pas savoir. C'est...
Je vais dire pas d'accord.
Non, mais s'il y a pas d'argument, il y a pas de.
Arrête, les chroniqueurs, les invités, les auditeurs.
Tu dis pas que c'est nul.
L'animateur.
Celui-là, la séquence est exceptionnelle.
Tu dis pas que c'est nul.
D'accord, allez, je veux dire d'accord.
Minimum demi?
D'accord.
l'Italie ne vivra pas la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutivement. D'accord, pas d'accord?
On va laisser Daniel répondre. Hein.
Ouais,
pas d'accord. Il va y arriver quand même.
Non, je le souhaite pour le football, je vais dire pas d'accord.
Ouais, mais d'accord. Oh, la phrase,
je vais dire
ça
d'accord.
Sert à rien.
Je le souhaite un peu moins pour Daniel.
Merci, Walid.
Ah, ils vont y aller, ils vont y aller.
Guardiola fait la saison de trop.
D'accord.
C'est un entraîneur.
D'accord.
D'accord, Daniel.
D'accord.
Pas d'accord.
Je vais dire pas d'accord.
Pas d'accord.
Daniel, tu es seul, on t'écoute.
Ah, moi, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est au bout, qu'il est en burn-out. Alors, je ne sais pas si la réponse des autres a été influencée par ce qui s'est passé il y a deux jours avec un titre quand même gagné.
Contre Arsenal.
Oui.
Il n'est pas décroché en championnat. Il est encore à 6 points, je pense, vraiment,
j'ai du mal à compter, mais j'arrive encore à savoir quand on est premier, deuxième, l'écart de points, j'arrive encore à le faire, Kevin. Je pense que quand moi,
c'est
qui
pas bon en mathématiques.
Moi qui étais vraiment un vrai admirateur de cet entraîneur pour tout ce qu'il a apporté dans le football, le voir finir comme ça. Moi, j'ai toujours du mal avec la fin. J'ai des problèmes avec la fin des groupes, des chanteurs, des artistes, le film de trop, la carrière qui finit mal. Vous avez parlé de la fin de Salah tout à l'heure. Lui aussi, je pense que c'est son année de trop, alors que peut-être, j'en sais rien. Moi, qui dit qu'il va pas gagner la Ligue des Champions? Je sais pas. Bref, j'ai du mal avec la fin. Parfois, je l'appréhende même mal, en me disant, oui, peut-être que Guardiola va gagner encore la Première Ligue. Ça m'étonnerait vraiment.
Mais c'est encore possible.
Voilà.
Donc c'est pas que le d'accord, mais la, pas mais d'accord
la façon,
est compliqué.
La façon qu'il a de se comporter. Quand un mec a été à ce point au sommet, sa superbe, sa prestance, son charisme sur le banc, là j'ai l'impression de voir un mec fatigué, usé. Son visage, il a changé, son look
a changé.
Ses choix de jeu ont changé. Les joueurs qu'il a dans son équipe.
Profils.
Jamais il aurait eu des profils de joueurs comme ça avant. En fait, comme ça me plaît pas. Je réponds que c'est l'année de trop.
Alors moi, pour répondre à Daniel, globalement, je suis d'accord avec lui, mais je peux pas dire que c'est la saison de trop quand t'as gagné une League Cup. Et attends,
c'est presque un minimum pour.
Non mais
City.
Et t'es encore dans le coup.
Enfin, City ça gagne, Arsenal ça gagne pas.
Non mais
excuse-moi,
Nico, tu vas recevoir quand même Arsenal à la maison. T'as un match en moins. Arsenal, on sait très bien que ça peut chier mou dans le sprint final, où ça peut être compliqué. Si à la fin il fait doubler ou il tape en finale et qu'il gagne le titre, on pourra pas dire que c'est la saison de trop. Par contre, moi je pense que oui, il y a certaines limites en ce moment, et il l'a même reconnu dans certains choix de jeu, dans certaines tactiques. Il s'est totalement viandé contre le Real Madrid, et pour moi,
dans ses recrues aussi.
Et aussi une usure.
Et pour moi,
physique.
L'image qu'il a laissée face à un Real Madrid B à l'aller au retour où tu te fais battre, c'est pas normal pour un coach comme lui. Maintenant, moi je pense que l'année prochaine, moi je veux voir Guardiola dans une sélection.
Là,
moi j'aimerais bien le voir prendre une sélection.
Le mieux, ce serait qu'il se repose un peu. Il est
fatigué. Ou qu'il se repose.
Mais cette année,
je ne peux pas être affirmatif.
On en a fait beaucoup. Il y a une mythologie autour du génie absolu de Guardiola. Mais si
d'accord, ok.
Non, mais.
Attends, j'ai pas Daniel sur Lucien Riquet avec Guardiola.
Je suis un dévot de Guardiola. Mais si tu regardes au Barça.
Moi je préfère les maîtres aux disciples.
D'accord. Au Barça, au Bayern, et même avec ses succès à City, il a toujours eu un milieu de terrain qui contrôlait le jeu et le tempo. C'était Busquets au Barça, il y avait Xabi Alonso au Bayern, il y a eu Rodri. Moi, je pense qu'il a été abandonné par Rodri.
Il a plus le même depuis son retour de blessure.
Et il s'est jamais caché. Il avait un Lionel Messi au Barça.
Non, il gagne avec Simon.
Écoute, il fonctionne quand même.
Il a gagné 18 PL en 19 ans.
Quand son milieu de terrain contrôle plus le tempo.
On est allé au bout de ce d'accord, pas d'accord.
Ouais. Et depuis qu'on n'est plus là, il gagne
plus. En 20 secondes.
Bah écoute, en 20 secondes pour conclure, moi je pense que c'est pas l'année de trop. Par contre, il faut qu'il s'arrête à la fin de la saison. Ça, c'est certain. Et moi, je pense que le recrutement de Donnarumma, pour moi, j'en démords pas. C'est pas du tout le gardien qu'il fallait pour City. Il y a certains choix dans ses recrutements.
Cherki, notamment, ce que tu me disais en off.
Non, j'ai pas dit ça en off. mais pour le coup.
Il a pas tendu la perche.
Pour le coup, je pense quand même que là, c'est pas l'année de trop, mais c'est la dernière.
Pause. Dans un instant, on finit avec deux, trois d'accord, pas d'accord. C'est dense, hein.
Ah, c'est très dense. En plus, tu nous ramènes du client.
Ouais, ça tourne. Il faut s'adapter à chaque sensibilité foot.
Il est pas mal, le nouveau.
Le nouveau est pas mal. Bon, faudrait pas qu'il fasse l'année de trop non plus, hein. Comme Guardiola. Mais il est pas mal, le nouveau.
Il sera là à 22h, Daniel, jusqu'à minuit, évidemment, avec Flo Gautreau et Gilbert. On est en direct de la croisière des 20 ans de l'After sur RMC. Merci d'être avec nous dans un instant. D'accord, pas d'accord. Kevin a compris avant tout le monde pour Balerdi. Reste avec nous. C'est Génération After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After. Nicolas Jamin.
Avec Oueda Cherchour, avec Kevin Diaz. Nous a rejoint également, tiens, Flo Gautreau, c'est pas sur le canapé, il a vu de la lumière. Et il a fait le déplacement, il est sur le bateau avec nous. La croisière des matins de l'after. Ouais, c'est ça, il va se frotter. Peut-être qu'ils veulent prendre un peu de jeunesse, justement. Tu vois.
Non, mais je regrette de ne pas vous accompagner tiens, à Rennes, parce que je sais que vous allez à la Rennes.
Eh oui, on va à Rennes,
donc je vous laisse.
Roisonne.
Voilà. Je tiens à le dire pour les 20 ans de
l'after. On va se revoir à Laval.
Maintenant, je serai ici à Paris.
Ah mince.
Je tiens à le dire pour les 20 ans de l'after. Hein. On parle de la jeunesse, génération after. Mais les darons, ils sont encore solides quand même.
Ouais, bien sûr.
C'est fort. Faut le dire quand même.
Tu parles de Kevin ?
De Flo Gautreau.
Ah bon.
Flo Gautreau, c'est encore solide. Daniel, etc. C'est quand même encore solide. Ils tiennent la baraque quand même.
C'est quand même, c'est évidemment solide.
Non, parce qu'on se dit 20 ans. Parce que nous on essaye, etc. C'est solide quand même.
Là, on a The Flow, The
Gautreau.
T'as vu quand Genesio, il remet.
Je préfère le chroniqueur Flo Gautreau que le TikToker qui est catastrophique. Ouais. Ça, c'est une réalité par contre.
Ouais, mais qui engrange.
Le Dodan.
Je veux un t-shirt de ça d'ailleurs. Hein. On va dire ça à Jonas de Foot Dimanche.
Excuse-moi, j'ai déjà une.
Kevin, t'es un Dodan.
J'ai déjà une équipe autour de moi, Nico.
Non.
Reste encore man de Génération After.
Un jour, lâche son équipe et
reste dans ta zone.
Je vous rappelle qu'on sera à Lorient le 1er avril. Et si vous voulez participer à l'émission et assister, on sera au Moustoir. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr. Public@rmc.fr. Voilà, vous pourrez assister
le
à l'émission.
Tu me parles du Moustoir tout de suite, c'est Fabien Audard.
Il sera avec nous aussi.
Non.
Mais c'est merveilleux.
Fabien Audard.
Il sera aussi avec
Fabien
nous. Audard. L'homme qui a le plus de cap hein, sous le maillot, en tout cas, de match sous le maillot l'orienté.
Moi, c'est Vaïrua.
Ah oui, Vaïrua aussi.
Ah, Vaïrua. On a aussi Kevin Gamero quand même, l'orienté.
À l'époque où il y avait, tu sais, il y avait le vélodrome derrière, là. Il y avait un espèce de. Il y avait un vélodrome au Moustoir, non ?
Non.
Avant qu'il soit refait, le stade.
Là, tu confonds avec Roubaix, Paris-Roubaix.
Non, mais je te dis. Bah, tu regarderas les images.
Johan Jouffre aussi. J'aimais beaucoup Johan Jouffre.
Beau joueur.
Ulrich Le Pen, ouais. Le Lens et Le Pen.
J'ai une info. Arnaud Le Lens sera avec nous aussi.
Arnaud Le Lens ?
Nico, j'ai une info sur Ulrich Le Pen.
Hein ?
Il est bon au Décathlon de Laval.
Ah oui ?
Non, c'est vrai. Ouais.
De quoi ?
Tout à fait. Non, Ulrich Le Pen bosse au Décathlon de Laval. D'accord.
Ah, comme Jérémy Mathieu. Mathieu qui était Intersport.
Ouais, c'est quoi le mieux ? C'est Intersport ou Décathlon aujourd'hui ?
Non, ouais, Décathlon, j'aime bien Décathlon. Moi.
Décathlon, c'est mieux maintenant.
Décathlon, c'est passé devant.
Ouais, Décathlon, c'est
avant, c'était Intersport.
Ah, c'est à fond la forme.
Enfin, voilà, un petit info comme ça.
On finit avec des d'accord, pas d'accord, les
amis. Allez, avec Flo.
Avec du Zidane Deschamps, vous savez, là.
On veut boxer avec Flo.
Petit Zizou Deschamps, là. Ouais, ça, là.
Vas-y, envoie la sauce.
Zidane va ringardiser Deschamps à la tête de l'équipe de France.
D'accord ou pas d'accord ?
D'accord, pas d'accord.
Pas d'accord chez moi.
Je l'espère. En termes de jeu, je parle.
En termes de jeu, je
reformule. Est-ce que Zidane va nous offrir plus de plaisir en termes de jeu que Deschamps en équipe de France ?
Je l'espère, donc je suis d'accord.
D'accord.
T'as dit quoi ?
Pas d'accord, moi.
Pourquoi ?
Parce que moi, je pense que ce sera sensiblement la même chose. Peut-être qu'il y aura une.
Parce que les mêmes joueurs.
Voilà, parce que je pense que l'équipe de France appartient aux joueurs et qu'elle continuera d'appartenir aux joueurs. Parce que dans un football de sélection, malheureusement, et surtout que Zidane n'a pas l'ADN d'un entraîneur architecte, c'est un entraîneur qui a pu être capable de mettre en place des tactiques très intéressantes, notamment la deuxième année au Real Madrid, même quand il est revenu. Mais je ne suis pas sûr que dans un football de sélection où il n'aura pas à sa main son effectif tout le temps, surtout qu'il en a des ADN quand même assez italien.
Et puis c'est un pragmatique aussi.
Et en tout cas, dans les grosses compétitions, Zidane, c'est la gagne. Moi, je pense que sur le jeu, par contre, en termes d'image, je l'espère, en termes d'aura, etc.
T'as quand même une différence, à mon avis, qu'il peut apporter et qu'il veut apporter. C'est qu'il sait ce que les gens attendent. Ouais. Il sait que c'est dur en termes de
ça,
mais il sait, ici.
Zidane doit gagner.
Mais il sait
gagner une fois.
Ouais, la différence, ça va se faire justement sur le jeu. Et Zidane, il aura l'appétence, il aura le choix du milieu défensif à enlever, il le fera ce choix-là. S'il veut mettre à un moment donné Ryan Cherki, il le fera là où Deschamps hésite tout le temps. Donc je pense que c'est pas tant sur le génie tactique, parce que ça, Zidane, il va pas apporter un bouleversement, mais sur les choix et sur la liberté et ce qu'il va vouloir donner aux gens, je pense qu'il sait qu'il y a une exigence dans ce qu'attendent les gens, une exigence de jeu. Donc moi, je veux croire qu'on sera, en tout cas, séduit par ça, mais par contre, en termes de résultats, je suis pas certain et que le grand public, par exemple, derrière, se retrouvera et sera aussi satisfait que ce qu'il y a eu avec Deschamps en termes de résultats. Il faut quand même rappeler que jusqu'à la Coupe du Monde qui arrive, on le souhaite à l'équipe de France, en tout cas jusqu'à la Coupe du Monde, Deschamps n'a gagné qu'une seule compétition. Donc Deschamps, il a gagné une seule compétition.
C'est énorme.
Il a gagné une compétition.
Il a gagné une finale, il fait finale d'Euro quand même.
Il a gagné une fois.
Ah, deux finales et gagné une fois à ce niveau-là, c'est énorme.
Il a gagné une fois.
Non, mais moi, je trouve ça intéressant, Kevin, parce que tu réponds à ça par rapport aux fans de Didier Deschamps, ceux qui mettent la culture de la gagne et la gagne. Voilà. Deschamps la gagne.
Ouais.
Maintenant, moi, c'est pas non plus ma conception du foot de dire à chaque fois il a gagné une fois, parce que moi, pour moi, en fait, il y a qu'un gagnant à l'Euro, il y a qu'un gagnant à la Coupe du Monde, et c'est le processus, les parcours. Par contre, c'est vrai qu'en termes de frissons,
c'est quoi l'héritage de Deschamps dans le football français?
Le problème de Deschamps, c'est la gagne ou rien. Donc quand il gagne pas, on a rien. Mais, c'est surtout ça le problème.
Mais quand t'es sélectionneur de l'équipe de France, tu laisses une legacy, tu laisses quelque chose
derrière. Un héritage en français, ça va très bien aussi.
Est-ce qu'il a participé à la DTN? Est-ce qu'il a participé à développer notre football?
Malheureusement.
Mais non, lui, il n'est là que pour gagner.
Oui, voilà, oui.
Mais il n'a gagné qu'une.
C'est le plus grand sélectionneur de l'équipe de France.
Tu parles d'héritage.
C'est le plus long.
Tu parles d'héritage. Vous nous chambrez souvent sur le côté daron. Je pense que ce qu'il faut que vous sachiez, pour vous qui avez quand même connu des victoires en Coupe du Monde, c'est que même des équipes de France qui ont perdu, elles ont laissé un héritage dingue pour nous.
Oui.
Les 82-86.
Ouais.
T'as pas besoin de gagner pour laisser un héritage dingue. C'est en ce sens que je pense que Zidane, lui, s'il fait ce pari-là, s'il inculque cette culture qu'il avait quand même, même si tu ne gagnes pas. Bien sûr que t'as plein de footix qui diront, ah, avec des chances à gagner, mais là, ça gagne plus. Mais l'héritage.
Une fois.
Mais le destin que tu peux laisser. Non, mais ce que je veux dire, c'est les émotions, le destin.
Non, mais moi, ça me rend fou.
Non, mais ça, d'accord, mais peu importe.
Une fois sur six, t'as gagné. Arrête de dire qu'avec des chances, ça a gagné.
Mais c'est pas grave. Kevin, c'est pas ça que je veux te dire.
Si, c'est grave.
Je veux te dire que ce que tu laisses dans l'esprit des gens avec les Bleus, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, ça n'est pas que le résultat.
Mais je suis pas sûr, Flo, que Zidane soit dans la même mentale que toi.
Peut-être.
Moi, je pense
peut-être.
Que tu te trompes sur ce que Zidane pense de ce que doit être l'équipe de France. Pour lui, c'est encore une machine à gagne et ce sera pas une machine à beau jeu.
Ouais,
je vais te dire un truc sur Cherki. Tout le monde pense que Cherki, etc. Tu vois, la dernière année de Deschamps. Moi, Deschamps, je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué sur le jeu. C'est un entraîneur qui m'intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année, ou même les deux dernières années, avec le 4-2-3-1, là, avec les quatre attaquants, etc., je suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Moi, je pense qu'un mec comme Cherki, je me rappelle que James Rodriguez, au Real Madrid, était un joueur qui rentrait pas du tout dans son système, qui préférait mettre Modric et Kroos.
Parce qu'il bossait pas l'entraînement.
Mais au-delà, même footballistiquement, il l'a fait avec Isco, parce qu'il y avait un 4-4 de Los Angeles qui s'imposait à ce moment-là, parce que Bale jouait au golf. Mais je dis sincèrement que l'histoire de Cherki, forcément en 10, ou les 4 offensifs avec Zidane, moi j'attends de voir là-dessus. Je pense que Deschamps, la fin de Deschamps sera peut-être même plus intéressante footballistiquement que les débuts de Zidane. Peut-être que j'ai une dinguerie, mais moi je le vois comme ça.
Ouais, mais attention, parce que là tu parles de la fin de Deschamps.
Oui.
Mais nous on a eu d'autres années aussi.
Ah, bah, bien sûr.
Quand tu mettais du Sissoko et que tu avais des 3 millions en permanence.
Ça, oui, évidemment, c'est pas
mal. Mais cet héritage-là, il existe aussi. Donc je pense quand même qu'on a des chances d'être un peu hypé.
Ah oui, ça, on sera hypé. Mais je pense qu'au bout de 6 mois, on se retrouve ici et on dit la même chose.
D'accord ou pas d'accord, le PSG doit tout faire pour garder Dembélé la saison prochaine. Flo.
Pas d'accord.
Kevin.
Pas d'accord.
T'es bien avec nous ou pas?
Ousmane Dembélé?
Oui.
Doit-il rester au Paris Saint-Germain?
Non,
le PSG c'est pas la question. Faire pour garder.
Et là, il est comme à l'école, Walid.
Ah, j'ai eu un petit moment d'inattention. Mais en fait, je sais pas, c'est le pas d'accord ou le d'accord, il se place de quel côté?
Non,
en fait,
c'était pas ça. Répète ta question. Non.
Le PSG doit tout faire pour garder Dembélé au PSG.
Oula.
Je suis fatigué, je suis
heureux. C'est les 80
le PSG
km.
Doit tout faire pour garder Dembélé la saison prochaine. D'accord, pas d'accord?
Pas d'accord. Tout faire, c'est quoi tout faire? C'est
moi, pas d'accord.
Lui donner la Tour Eiffel.
Pour une raison très simple et qui est liée à l'histoire récente du PSG. La question telle que tu la poses, ça voudrait dire: est-ce que le PSG doit se mettre par terre pour un joueur comme ça? Et évidemment que non, puisque ils se sont construits leur nouvelle histoire sur le fait que, quel que soit le joueur, tu ne dois pas te mettre par terre. Dembélé, il a sans doute son prime plutôt derrière lui que devant. Donc si tu raisonnes, je réponds juste à ta question là. Est-ce que tu dois tout faire pour garder Dembélé? Non.
Alors si on met une nuance, une simple revalorisation, pas démentielle non plus.
Mais ça marchera pas ça. Enfin, je veux dire, du côté de Dembélé.
Il veut combien déjà? Il veut 30 bâtons, non?
Là, il a 24, c'est ça?
Je crois qu'il est hors top 15 meilleur salaire européen. Il vient d'avoir le Ballon d'Or. Je crois, mais je sais pas. C'est pas les bons chiffres. Je sais pas. C'est pour ça que je m'appuyais sur toi.
Bon,
mais en tout cas,
par rapport aux chiffres.
Non, mais en tout cas, moi je minimise pas. Je dis pas d'accord, mais je minimise pas l'apport de Ousmane Dembélé.
Et le vide qu'il peut laisser.
Et le vide qu'il peut laisser. Et surtout le profil de joueur
qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Et moi, j'en vois pas 10 000. Je vois peut-être.
Il a 18 millions.
Je vois peut-être Julian Alvarez à l'Atlético. Je vois peut-être Kroupi de Bournemouth. Ah, vraiment? Dans le profil? Je te parle de profil de joueurs qui
sont. Mais tu vas prendre du que Dembélé s'en va, comment tu le remplaces?
C'est pour ça que je te dis que les profils de joueurs.
On m'avait dit que Génération After c'était sérieux là.
Voilà, c'est pas sérieux là.
C'est
dommage que le PSG n'a pas essayé un joueur comme Ekitike à l'époque.
Mais en tout cas, sur le marché, ces joueurs-là capables d'incarner. Ce que veut Luis Enrique, il y en a pas 10 000.
Après, il y a quand même l'histoire dont on parlait tout à l'heure pour Mo Salah. Il y a quand même l'Arabie Saoudite, quoi qu'il arrive. Donc, au pire, tu le prolonges, tu vois ce que ça donne l'année prochaine, et après,
il peut s'accrocher à son salaire.
Tu vois,
il y a 10 millions.
La question, elle est plutôt par rapport au club. C'est intéressant, la façon dont tu poses la question, c'est est-ce que tu dois tout faire pour.
Non,
c'est pour ça que je dis non.
Non,
on est d'accord. En revanche, là où je suis d'accord avec Walid sur un point, pas que au niveau du profil, au niveau du leadership. Dans le vestiaire. Parce que ce qu'il a dit sur Doué, enfin, même si c'était pas que sur Doué, ce qu'il a dit à la fin du match, ce qu'il dit dans le vestiaire.
Après Marseille, quand ils ont fait... Après Marseille, quand ils ont le retour.
C'est quand même lui qui est le baromètre de ce vestiaire. Donc, c'est pas tant, financièrement, non, le club ne doit pas faire ça, ne doit pas se mettre par terre. Deux, Dembélé, oui, bien sûr, tout le monde est remplaçable dans le système de Luis Enrique, il l'a dit, il l'avait dit avec Mbappé, c'est vrai. En revanche, c'est vrai qu'en termes de leadership, t'enlèves Dembélé du vestiaire, t'as plus le même
vestiaire.
Après, tu sais,
sur Kroupi, tu rigolais. Mais Kroupi, déjà, c'est un super joueur. Au-delà d'être un super joueur, il a un agent qui est super influent au PSG.
Ah non, mais
que la même Ousmane Dembélé.
Que la possibilité de le faire, c'est une chose, mais là, tu l'as remplacé direct par
Kroupi. Non, je ne sais pas, qu'en termes de profil, aujourd'hui, ceux qui sont dispo ou ceux qui pourraient venir au PSG pour passer une étape, parce que quand Barcola arrive au PSG, c'est pour passer une étape, je vais pas tous les faire, mais on a compris. Et je dis juste que ce que tu perds sur Ousmane Dembélé, faudra quand même le quantifier, parce que si c'est pour, comme Donnarumma, racheter un autre gardien à 55, plus derrière, si ce gardien-là, il marche pas, racheter un autre gardien à 70, et qu'au final, ça te coûte 120 bâtons, il y a aussi un calcul à trouver.
Surtout le successeur de Marquinhos.
C'était pas Zabrani.
Voilà, c'est pour ça que
c'est moins
ça.
Compliqué que de trouver un successeur.
Ça pas fait quand même.
Et sur Upamecano.
Sur une double balle envoyée par Kevin pour conclure cette magnifique génération After, un peu chaotique au début. Mais hyper vivant, on s'est régalé, j'espère vous aussi.
Combien de temps d'ailleurs, génération After?
4 ans.
Quatrième année déjà.
4 ans.
Ça passe, hein.
Bravo les gars.
Merci.
On est là.
Il nous reste un peu de boulot quand même.
C'est la grande section, hein.
Ouais. On va grandir. On va grandir, on va passer en CP.
4 ans, c'est le CP.
On parle de 4 ans.
Tu veux dire.
En avance.
T'as 4 ans, Kevin.
Pour la première année de maternelle.
Ça fait 4 ans d'école, je pense.
En tout cas, Kevin, tu termines l'émission comme tu l'as commencé.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter et laisser la place à Flo. Tu vas rester là. Daniel, Gilbert, merci de nous avoir accompagnés dans ce Génération After pour les 20 ans de l'After. C'est parti, la soirée ne fait que commencer sur RMC jusqu'à minuit. Bye bye.
Génération After.